At the Bank of Antandek, mortgages are on the menu.
I was in the chippy last night and it hit me.
Go on.
We should give all our new mortgage customers £1,000 of spuds.
Potatoes?
Yeah, jackets, roasties, dolphin wires. I mean, what's not to love?
Hey, yeah, we could call it Mashback.
Genius.
Meanwhile, at Santander, they're giving their customers £1,000 cash back on selected first-time buyer mortgages. See what's possible at Santander.
Lending subject to status and criteria. Cashback given on completion and repayable if mortgage closed within 2 years. Offer can be withdrawn. Your home may be repossessed if you do not keep up repayments on your mortgage.
Vous écoutez
RMC.
RMC.
J'ai annoncé aussi l'arrivée, faut pas que je me gourde, de Tata
Roussanou.
Il a tué la baraque et puis Marquitos.
Il y a des clubs qui ont des traditions. Manchester United, le Real de Madrid, le Barca.
Jusqu'à minuit,
c'est l'After Foot, Nicolas Jamain.
Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans l'After Foot. On est là tous les soirs de la semaine, du lundi au dimanche. L'After Foot, la seule émission radio en direct 7 jours sur 7. L'After Foot, l'after de l'élégance, le vendredi comme le samedi soir. Costume, deux pièces ce soir. Jonathan McCarty est dans la place. Salut Jonathan.
Salut les gars.
Pardon. Qui a pris un petit coup visiblement sur la joue.
Mais non,
c'est rien.
On allait s'entraîner tous les deux.
C'est ça, pour le combat à venir, bien sûr, entre Ludo et Jonathan McCarty.
Toi, t'es le genre de mec, t'as installé une sonnette chez toi parce que quand tu tapes à la porte, maman, elle n'entend pas, donc t'es obligé de sonner, quoi.
Arrête en Ludo Bragnac est à mes côtés. Salut Ludo.
Salut les amis.
Voilà, on est ensemble jusqu'à minuit, bien sûr, pour l'After Foot. Un énorme programme ce soir. Le hashtag RMC Live est ouvert. Réagissez, on lit vos messages à l'antenne. Puis le 32-16, supporter nantais, deuxième de Ligue 1 encore ce soir. On enchaîne sur une victoire face à Nice. On va parler du jeu nantais, de la prestation des Nantais, également du succès Christian Gourcuff au FC Nantes. Le PSG séduisant, vainqueur d'Angers 4-1. Est-ce le meilleur match du PSG cette saison en Ligue 1, je précise. Enfin, Eden Hazard, qui a écouté l'After hier, a marqué son premier but cette saison depuis qu'il est arrivé au Real Madrid. On en parle avec Fred Hermel,
bien
sûr.
Ça, c'est parce que Ludo lui a ciré les chaussures. Du coup, elles ont été un peu plus efficaces, quoi.
Non. T'as vu, il essaye de m'attaquer sur
ça. Très bien. Non, j'aime. C'est pas ça, les gars. On va se régaler ce soir. Fred Hermel sera là.
C'est quitte à se faire piquer sa place dans une carrière, autant que ce soit pour Eden Hazard.
Exactement. Inter Milan, Juventus Turin, demain, énorme, le choc des leaders en Serie A. Simone Rovira sera avec nous, il a plein d'infos, il a des compos probables à nous livrer.
Alors là les gars, on va bien les noter et puis on va bien comparer demain ce qu'il y aura.
Allez, on débriefe la Ligue 1, le foot étranger bien sûr, hashtag RMC Live 32-16. Mais le rugby d'abord, Edouard G, le duel entre les deux invaincus du top 14, 6ème journée, le Loup, Lyon face à l'Union Bordeaux-Bègles.
Lyon a été bousculé en première période, 10 points d'avance pour l'UBB et Lyon s'est révolté, motivé en deuxième période et ça a fait un rapproché. Désormais il n'y a plus que 5 points d'avance pour Bordeaux, puisqu'il y a eu un deuxième essai, le deuxième essai d'ailleurs d'un ancien de l'UBB, Jean-Marcelin Butin. Donc pour l'instant, c'est toujours Bordeaux qui est en tête, mais plus que de 5 points, 23-18. Nous en sommes à l'heure de jeu.
Edouard, tu restes avec nous évidemment. Les scores, je rappelle, les scores de la Ligue 1, 9e journée avant les matchs de demain. Paris 4-0 face à Angers, Brest 2-0 face à Metz, Fossurier Castelletto pour les Brestois, Dijon s'impose face à Strasbourg, Mavididi buteur, Toulouse battu à domicile par Bordeaux 3 buts. De Préville, Pablo Wang contre un but de Koulouris pour le TFC. Nantes s'impose à la 86e minute grâce à Simon. 1-0 face à Nice. Montpellier s'est baladé clairement face à Monaco. Monaco qui inquiète à nouveau malgré un but de Wissam Ben Yedder qui avait réduit l'écart. Mollet, Mendes, Delors pour les Montpelliérains.
Pourquoi à nouveau, Nico?
Parce que la semaine dernière, on va en parler. Et ce sera sûrement l'objet de vos trois points peut-être dans un instant. On s'est fait un peu allumer sur l'analyse qu'on faisait de la victoire monégasque face à Brest.
Il me semble qu'on a eu
beaucoup de supporters monégasques disaient c'est bon, on est lancé. Visiblement, c'est pas encore le cas. On va mesurer en tout cas ces propos-là. On débriefe dans un instant. Jingle, trois points.
L'important, c'est l'essentiel.
Le plus important, c'est les trois points.
Souvent, l'essentiel, c'est le plus important.
On commence par toi, Jonathan McCarty.
Compliqué ce soir parce qu'il y aurait des trucs à dire sur tous les matchs qu'on a vus. Donc, le premier point, c'est sur le Paris Saint-Germain. Prestation très convaincante. C'est rare pour le souligner. Ça faisait un moment que j'avais pas vu, mais si ce n'est le match contre le Real Madrid, le PSG aussi fluide. Donc, une victoire 4-0 contre une bonne équipe d'Angers, qui est une bonne équipe. Donc, c'est à souligner. Le deuxième point, on peut évidemment que souligner que même si c'est pas encore forcément flamboyant, que le FC Nantes a maintenant des certitudes, que le FC Nantes s'installe dans l'eau du classement et que Christian Gourcuff est donc un magicien. Et le troisième point, c'est sur Monaco. Écoute, Monaco, moi la semaine dernière, c'est pas parce qu'ils ont gagné contre Brest avec un score un petit peu gonflé qu'il fallait s'enflammer. Monaco est toujours une équipe malade qui réside simplement sur les coups d'éclat individuels de ses talents offensifs, mais c'est une équipe qui n'a aucune certitude collective et Jardim est totalement perdu.
Bravo. À la seconde près. Ludo, pression sur toi. 3 points, Ludovic Obraniak.
J'ai envie de commencer par les Girondins de Bordeaux. Bordeaux, ça se précise.
Oui.
Tout doucement, Paulo Sousa est en train d'imprégner sa patte en nous mettant parfois des compos improbables, en essayant des joueurs notamment sur les côtés. Donc, comment ne pas associer aussi les Girondins de Bordeaux à Toulouse? On en parlera tout à l'heure, mais cette équipe est en danger, vraiment. J'aimerais parler de Monaco également, dire que Monaco, ça suffit. Alors je sais pas, est-ce que le temps de Jardim est révolu ou est-ce qu'on peut en vouloir aux dirigeants? On se posera la question tout à l'heure. Et puis finir par Montpellier qui finalement confirme l'année de la confirmation pour les Montpelliérains. Et je sais pas jusqu'où ils peuvent aller, mais avec le retour de Savanier et de Ferry, ça laisse
présager de beaux jours.
Oui.
Exactement. Mes trois points rapidement, messieurs, en 15 secondes. Nantes plus Auxerre, vainqueur aujourd'hui. Furlan, Gourcuff, on les adore, oui. On est tous d'accord. 6 points pour nos coachs préférés. Et également Ribéry, c'est pas mon joueur préféré, mais ce qu'il fait à la FIO, il joue demain contre Udinese, élu joueur du mois de septembre en Serie A pour le premier mois de deuxième mois de Serie A. Deux buts, une passe pour lui.
Tout le monde nous a pas dit qu'il était trop vieux pour
Marseille. Eden Hazard, buteur, ça y est, peut-être a-t-il lancé sa saison, c'est ce qu'il avait dit. On a fait un gros et long débat hier sur pourquoi Eden Hazard n'arrive pas à trouver sa place au Real. Il a été plutôt bon, Fred Hermel sera avec nous. Moi, mon point, c'est parce que je pense qu'il a écouté l'after.
Non, c'est passé les bisous que Ludo lui fait, en fait, depuis la rentrée.
C'est toi qui lui as fait ça sur la joue ou pas? Vous pouvez voir la marque sur la joue gauche de
même pas
sur
Ludo.
Je ne voudrais pas l'humilier.
Ça réagit beaucoup sur hashtag RMC Live, messieurs. Le 32-16 est ouvert. Support à Nantais, Niçois, Bordelais, bien sûr. Monégasque, appelez-nous. C'est ouvert, c'est l'after. Tout de suite.
30 secondes pour dire que le
15 secondes.
Parce qu'il y a eu beaucoup de problèmes techniques, le podcast du RMC Fighter Club est enfin en ligne. On m'a beaucoup demandé parce qu'il n'était pas en ligne. Il y a eu des problèmes techniques, mais là c'est en ligne. Donc retrouvez-nous avec Cédric Doumbé, RMC Fighter Club.
Clément, supporter du FC Nantes, 26 ans, nous a appelé. Salut Clément.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous Clément. Solide deuxième de Ligue 1. Victoire du FC Nantes 1-0 face à Nice. Nantes deuxième à 2 points du PSG. Qui l'eût cru lorsque Christian Gourcuff a pris l'équipe 2 jours avant le début du championnat?
Ouais, ben, ce que j'ai envie de dire, c'est qu'avec pour la première fois depuis plusieurs années, depuis plusieurs saisons, on a un effectif qui est cohérent. On a des joueurs de couloir capables de faire la différence, un terrain qui est équilibré, ouais. On n'a pas spécialement empilé les joueurs pour les empiler, on n'a pas les meilleurs joueurs de Ligue 1, c'est sûr, mais on a un coach qui sait ce qu'il fait, qui a ses certitudes, et ça change tout, et surtout un coach qui l'a annoncé depuis qu'il est arrivé, n'a pas de pression. Puisqu'il est en train de promener ses chiens qu'on lui a proposé d'entraîner le club. Et si jamais ça se passe mal avec Kita, il retournera promener ses chiens, ça ira bien.
Exactement. Tu vois pourquoi c'est un chic type, Christian Gourcuff? C'est un homme qui aime les animaux, c'est un homme qui aime les chiens, et c'est pour ça aussi qu'on l'aime.
Mais c'est vrai qu'on en parle souvent avec toi, Jonathan, avec toi, Ludo aussi. Hein, les images qu'on voit de Christian Gourcuff sont presque inédites. On l'a jamais vu un homme aussi souriant. Au bord du terrain,
c'est pas le même.
Aussi apaisé, c'est comme s'il vivait une sorte de bonus dans sa carrière, quelque chose d'inattendu.
Mais il a eu une espèce de pause où il a été écarté pendant un moment. Après, il est parti aux Émirats Arabes Unis. Il me semble que c'est ça. Et forcément, quand t'as la tête dans le guidon pendant tant d'années, il avait un tel impact sur l'Orient. Il était à la Il s'occupait en même temps de la formation, en même temps de l'équipe première. Son empreinte, elle était partout dans ce club-là. Donc, au-delà d'être un entraîneur, il devait être sûrement un manager, quasiment.
Ouais, le recrutement
et
également,
c'était bien. Je pense que finalement, cette pause lui a fait le plus grand bien. Il s'est ressourcé, il est retourné aux choses qui lui font plaisir. Bah, tu le dis, promener ses chiens, être au bord de la mer, aller manger des huîtres. C'est un homme d'une simplicité exemplaire. Moi, je l'ai eu maintes fois l'occasion de le rencontrer. C'est un homme passionnant quand il parle de football. Et là, j'ai l'impression qu'il a lâché les chevaux, quoi. Tu vois, il est heureux d'être là et ça se ressent vraiment. On sent que ces mecs sont transfigurés sur le terrain.
Clément. C'est ça qui fait du bien, en fait. C'est que pour la première fois depuis plusieurs années, à Nantes, on parle de foot, on parle pas de ce qu'il y a autour. Donc,
on parle moins de Valdemarquita, du coup, forcément. Ouais, il a pris un peu de recul aussi.
Bon, reste à voir si on en parlera moins, si jamais, parce que bon, faut pas.
On va attendre le mercato, les amis, non?
On va pas finir la saison invaincu. Faut pas se leurrer, on en perdra des matchs, parce que malgré tout, offensivement, je pense qu'on manque peut-être de profondeur de banc au niveau offensif, surtout parce que Koulibaly va pas pouvoir faire des 38 matchs comme ça, il va finir éreinté. Mais donc, faut voir si, sur la durée, avec peut-être des périodes de moins bien, parce qu'il y en aura, on ne reverra pas le président en première ligne, mais jusqu'à présent, oui, ça fait du bien de reparler
de tout. De toute manière, ce qu'on va faire, c'est que déjà pour Gourcuff, ce qu'il faut souligner, c'est qu'à Lorient, tu l'as dit, il faisait tout. Après, il prend un challenge qui est quand même rempli de pression avec l'Algérie, où il fait des belles choses, il a une très belle équipe, mais il n'arrive pas à gagner cette CAN en 2016. Et après, il va à Rennes, où il a une pression de malade, t'as ses esprits de revanche, tu sais, par rapport à l'aventure qui s'était mal passée
auparavant.
Deuxième
passage à Rennes qui se finit très mal.
Et ça se finit en queue de boudin. Là, c'est vraiment, voilà.
En queue de boudin.
Ouais, non.
C'est
beaucoup mieux.
Sortez-la-moi, celle-là, s'il vous plaît.
Et donc, du coup, non, mais là, il arrive à Nantes. Il arrive un petit peu sans pression parce que, écoute, il prend l'équipe à deux jours avant la fin du championnat.
Il a dit, je prends une méfiance, ouais. J'ai un appel du FC Nantes et là, j'accepte.
Après, est-ce que ça a un rôle, un impact sur ce qu'il est capable de faire d'une équipe? Je pense pas, parce que je pense que ce mec-là, à 10 milieux sous la mer, avec plein de pression, il serait aussi bon. Après, ce qui est intéressant d'attendre pour voir, là on parlait de Valdemarquita, on va quand même attendre le premier mercato d'hiver. Là on va voir, je pense que Gourcuff va avoir des demandes parce que son équipe tourne bien, mais comme notre éditeur le soulignait très justement, notamment en pointe, t'es un petit peu juste, on va voir comment ça se passe, si le président, la direction accède aux demandes de Gourcuff qui seront à mon sens légitimes, et on verra si Kita est vraiment en retrait.
Il a su en très peu de temps synthétiser les qualités et les défauts de cette équipe. Tu sens cette énergie qu'ont tous ces jeunes joueurs là, Simon, Koulibaly, Bamba qui est rentré, c'est lui qui fait la différence d'ailleurs sur le but. Et en même temps, il a su allier à ça l'expérience de certains qu'il fallait relancer. Alors Nicolas Palois, ça fait un moment qu'il est plutôt bon, ouais. Mais la bonne idée d'avoir aussi refait des... Alors je sais pas si c'était déjà le cas l'année dernière. C'était déjà le cas l'année dernière, mais le fait de l'associer à Giroto, ça fait quand même une charnière qui est ultra solide, ultra efficace.
Rendons à Vaïd qui appartient à Vaïd.
Attends, Nicolas Palois, il est transfiguré. Il fait un râteau sur Attal. Le week-end dernier, il nous fait une percée de 80 mètres. Donc, tu vois, c'est-à-dire que cette équipe transpire la confiance. Il a su inspirer à ses jeunes joueurs. En fait,
non mais c'est court son expérience.
Ouais, non mais
ce qui est vraiment le plus fort, c'est que on sait que son schéma préférentiel, c'est de jouer en 4-4-2. Donc c'est quand même un schéma qui demande des spécificités sur certains postes. Là, il arrive deux jours avant le début du championnat. Il a pas non plus un impact de malade sur le marché des transferts. Il arrive quand même à mettre en place son système de jeu. Il arrive quand même à faire en sorte que les joueurs comprennent ce système et l'interprètent déjà plutôt pas mal, à mon sens. Donc oui, le travail qu'il a fait, il est phénoménal. Et la réussite actuelle du FC Nantes est à 99% celle de Christian Gourcuff.
Clément, alors oui, il y a les résultats. Il y a la deuxième place de Ligue 1. Mais est-ce que tu prends du plaisir à avoir joué le FC Nantes? Parce que c'est vrai qu'on a longtemps loué le jeu, l'esthétisme Gourcuff. Pour l'instant, je le vois pas tout à fait. Je vois des joueurs qui se dépassent, plein d'enthousiasme.
Il y a des phases de jeu.
Je vois pas le Lorient des années 90, le début 2000.
On en est loin, Clément. Il y a des choses qui se mettent en place, clairement, depuis que je suis régulièrement les matchs. Mais si, il y a des choses qui se mettent en place. Après, on ne peut pas mettre en place des automatismes, notamment sur un 4-4-2, avec surtout la volonté de jouer de Gourcuff et que ça soit fluide tout de suite. Mais dès le début, on a vu des bribes de jeu, et plus ça va, plus ça se met en place. Et il y a une chose importante, c'est qu'au niveau, malgré tout, de la récupération du ballon, on ne peut pas jouer si on ne récupère pas le ballon. Au niveau de la récupération du ballon, on est super efficace. Bah oui. Donc, il y a vraiment des choses qui se mettent en place. Après, ce qu'il faudrait, c'est qu'on arrive à se mettre à l'abri plus rapidement. Parce que c'est vrai qu'on ne gagnera pas tous les matchs non plus 1-0. Donc, il faudrait. De toute façon, c'est ce qui est le plus difficile en football. C'est mettre en place les automatismes offensivement.
Non, c'est 9 matchs, 9 buts.
Clément, tu seras sûrement d'accord avec moi. mais il faut rendre aussi à César ce qui est à César et à Vahid ce qui est à Vahid. Je trouve que Vahid a eu une il a aussi eu un véritable impact sur cette équipe, notamment en fin de saison dernière où les joueurs aussi ont passé un cap, ont élevé leur niveau à son contact. On souligne le travail de Christian Gourcuff, mais je trouve aussi que le travail qui a été effectué par Vahid, on a pu beaucoup douter sur l'arrivée de Vahid et ce qu'il allait pouvoir apporter au FC Nantes. Je trouve que il est aussi dans Christian Gourcuff se sert de la continuité de ce qu'a créé Vahid. Donc voilà, j'aimerais l'associer aussi à la bonne santé
du
FC Nantes actuel.
Le sérieux de certains joueurs, la préparation physique, parce que je trouve que les joueurs du FC Nantes sont en ce moment très en forme. Mais je pense que ça c'est dû à la préparation de Vahid parce que tu sens qu'ils sont au-dessus physiquement de leur adversaire.
Merci Clément. Un dernier mot.
On partait pas d'une feuille blanche puisque Gourcuff bosse avec le staff qui était avec Elodie avant et notamment Cyril Moine qui est devenu préparateur physique de l'équipe de France, donc il partait pas d'une feuille blanche.
Ouais, c'est vrai.
Merci et, Clément.
Juste dernièrement pour finir, ouais, hier il y a Palois qui a tweeté qu'il prenait sa carrière internationale.
Sa retraite.
Et qu'il prenait sa retraite internationale. Et juste pour dire, vu ce qu'il montre, même pas que depuis le début de saison, depuis l'année dernière, il aurait rien eu à envier à Nadir Rami qui était appelé en équipe de France.
Ah oui, mais là oui, mais évidemment. Oui, je croyais que tu allais dire qu'il aurait eu sa place, pourquoi pas, dès cette année en équipe de France. Oui.
Non, mais par rapport à un joueur comme Rami qui était appelé régulièrement, Palois n'avait strictement rien à lui envier.
Ah, c'est un autre débat, ça. Quand Rami était à son top niveau, c'était quand même un très grand défenseur.
Adil a été pris, pas que pour des raisons sportives.
Oui, je sais. Voilà. Mais voilà.
Merci Clément.
Vous parlez de qui?
Excellent. Arrête. De ton ami, excellente saison à toi.
C'est qui?
Clément. Messieurs, avant de parler de Nice, hein, qui stagne, 3 matchs, 2 défaites, 1 nul. Nantes, c'est 6 victoires sur les 7 derniers matchs quand même. Le rugby, Lyon, Bordeaux-Bègle, Edouard G.
Et l'affiche qui a toutes ses promesses en force à l'instant. Jean-Marc Doussin vient confirmer cette deuxième mi-temps de feu des Lyonnais. Le troisième essai. Et c'est transformé par ce même Jean-Marc Doussin. Ça fait donc désormais 2 points d'avance pour le Loup qui repasse en tête. Le Loup qui était mené de 10 points à la mi-temps après des errements de défense justement à la fin du premier acte. Le deuxième acte est beaucoup plus abouti. On a resserré les liens et surtout on a mis de l'efficacité. Et à l'instant donc, Jean-Marc Doussin qui permet aux Lyonnais de repasser en tête 25-23 dans cette affiche du top 14 qui tient toutes ses promesses entre le premier et le deuxième.
Eric, supporter de l'OGC Nice, c'est avec nous. Salut Eric.
Bonsoir.
Salut Eric.
Et bienvenue dans l'after. Jonathan Mercardi, Ludovic Obraniak, t'écoute bien sûr. Bon, on le disait, hein, Nice stagne un petit peu. Une défaite à Monaco 3-1, un nul à domicile contre Lille partout, une défaite à Nantes. Il y a rien d'infamant quand on voit ce que les Niçois ont joué. Quand on voit encore le nombre d'absents Dante est quand même revenu, dont souffre le coach Patrick Vieira. Qu'est-ce que tu penses? Comment tu analyses cette défaite niçoise?
Disons que pour moi, c'est... Enfin, moi, je deviens fou chez moi, quoi. Parce qu'en fait, je comprends pas les choix de Patrick Vieira, en fait. Je comprends pas les choix, tout simplement, parce que, bon, Dante, déjà, qui revient en défense centrale, ça fait vraiment du bien. Il met Malangsar à gauche.
Mais ça, c'est bizarre.
Alors, on sait qu'il est pas... Je suis désolé, mais c'est pas sa place. C'est un défenseur central. Donc, moi, je comprends pas pourquoi il fait sortir Racine Colli, alors qu'il a fait un très bon début de saison. Il est efficace sur son côté gauche. Il a qu'à mettre Colli déjà à sa place. Sarr en centrale avec Dante, parce qu'on appelle Marc, il fait ce qu'il peut, il est quand même jeune. Et surtout, ce qui nous manque, longtemps, c'est qu'on n'a pas de créateur. Le pauvre Kasper Dolberg, il est comme une âme en peine. Quand on avait Ounas, on voyait qu'il y avait du jeu, il était en 10. Le problème, c'est qu'on n'a plus de 10. Donc, où il fait rentrer le petit Boudaoui, là, parce que je pense que lui, il a du ballon et c'est quand même plus un meneur de jeu. Et le problème, il est là, c'est que Lesmelou, il court beaucoup, il mouille le maillot, mais ils ne savent pas donner les ballons. Cyprien, c'est pas un meneur de jeu. Tamézé, c'est pas un meneur de jeu. Et Attal, il arrive un moment, Attal, excusez-moi, mais il est rincé, le gamin. Qu'il revienne, ou alors si le PSG joue, qu'il remette à sa place, qu'on retrouve une défense Colli, Sarr, en attendant que Christophe Herrel revienne, Dante, et puis à la limite, Burner. Un milieu de terrain avec Cyprien qui récupère les ballons en 6, et puis au moins, même si Médation, mais ou alors il fait jouer Boudaoui en 10, et puis devant, il a laissé Kasper Dolberg, Alexis Maurice, Miziane ou Ganago. Moi, je comprends pas ces choix.
Mais attends, Eric.
On on est lent.
Eric, juste sur ce que tu disais au milieu de terrain. Juste par rapport à ce que tu disais sur le milieu de terrain, je suis pas forcément d'accord avec toi. Alors, il est vrai que là, pour le coup, le matériel offensif, maintenant, Patrick Vieira en a. Mais c'est plus sur la composition du milieu de terrain où je suis d'accord avec toi. Moi, j'ai un peu du mal sur la dernière série de matchs à comprendre ce que Patrick Vieira veut mettre en place. Mais à mon sens, si t'as un créateur au milieu de terrain, le joueur le plus créatif, de par sa qualité de passe et de par son intelligence, c'est Willian Cyprien. Et je pense que de vouloir l'associer avec ces joueurs-là qui sont Lasmelou et Luzamba, je doute de la complémentarité. C'est trois joueurs qui sont pas vraiment des vrais récupérateurs.
Oui,
et je pense que Cyprien,
Cyprien, c'est un récupérateur de ballon.
Juste pour terminer, je pense que Cyprien, si tu lui associes un milieu de terrain qui est peut-être un petit peu plus travailleur, tu peux le retrouver dans le même registre qu'il était avant sa blessure, où il jouait plus haut, et justement, je le trouvais avec une belle capacité à distribuer les ballons.
Attends, Eric, Ludo d'abord.
Non, mais le problème au milieu de terrain, il n'est pas forcément là. Je sais pas pourquoi on a sorti Tamézé du milieu de terrain, surtout. S'il y a bien un joueur qui est capable de récupérer des ballons, c'est lui.
C'est le seul profil qu'ils ont.
Et voilà, là, ces joueurs-là, c'est pas des gratteurs de ballons. Aussi remettre Dante dans une défense à 4, est-ce que c'est la meilleure des solutions? Je sais pas.
Ludo, t'as trop de blessures en défense centrale pour faire une défense à 3.
Tu peux pas mettre Sarr. Et pour sécuriser le jeune avec Dante.
Je pense que ni Sarr ni Pelmar sont au niveau.
Colli à gauche.
Ni Sarr ni Pelmar sont au niveau.
Et surtout remettre Atal à droite.
Ni Sarr ni Pelmar.
Atal à droite, qui était beaucoup plus influent, qui est meilleur quand il part de plus loin.
Tu peux le faire quand tu récupères Christophe Herrel.
Il fallait que tu retrouves absolument une stabilité défensive. T'as pris l'eau de toutes parts là, sur ce match aujourd'hui.
Nice, 8e de Ligue 1, 13 points. Le bilan est de moins en moins satisfaisant pour les Niçois qui étaient bien lancés.
On sait que quand cette équipe elle a une assise défensive solide, elle est capable après de se projeter vers l'avant. Lesmelou, c'est pas un mauvais joueur de ballon. Cyprien, c'est pas un mauvais joueur de ballon. C'est vrai qu'il manque Ounas. Ounas, il manque cruellement sur ces derniers matchs. Mais je trouve que d'abord, il devrait retrouver une solidité défensive, ce qui était le cas la saison dernière. Alors, c'était pas beau à voir, mais au moins, t'étais solide et sur un malentendu, t'arrivais à faire des hold-up avec la vitesse des mecs de demain.
Attends juste, la différence par rapport à l'année dernière, c'est que l'année dernière, je trouvais que justement, en termes de création, il y avait plus de choses parce que je trouvais que le milieu de terrain arrivait à amener le ballon jusqu'au 30 derniers mètres. Et ce qui manquait, c'était un finisseur. Là, ils l'ont le finisseur.
Il n'y a pas de création.
C'était mieux que sur les trois derniers matchs qu'on a vus.
Ok, Eric, dernier mot, vas-y, conclue.
Ah mais là, je suis là, oui, c'est ce que je te dis.
Non, mais vous avez vu ce soir le match, le pauvre Dolberg, il m'a fait de la peine, il était comme une âme en peine devant, il a eu aucun ballon,
Ouais, et je pense qu'il a dit, en tout cas, il a montré quand il est sorti sur le banc de touche, il avait une tête.
Bien sûr, il
était en dépression, Dolberg.
Je n'arrêterai pas de dire, et j'en suis persuadé, il nous manque un créateur, excusez-moi, je vais parvenir en arrière, mais il nous manquait un mec comme Ben Arfa, comme Belanda, mecs qui donnent les ballons.
Il a quel âge, Boudaoui?
Pour avoir une grande équipe de football, il faut un 10 quand même, il faut un minimum d'un gars qui sache donner les ballons. Okay. Moi, je suis désolé, Cyprien, il donne pas les ballons, il fait un bon joueur.
Okay,
il
ratisse
des ballons, mais après, regardez, il joue derrière tout le temps,
il est énervé,
lent.
Eric.
Ils sont lents,
allez, Eric, faut que tu t'arrêtes.
Ils nous ont mis dans le vent.
Eric. Merci Eric, tu rappelles quand tu veux, on a compris, il manque un créateur à l'OGC Nice. Merci à toi d'avoir appelé au 32-16, dans un instant on va parler de Monaco, battu à Montpellier et de Montpellier qui bat Monaco aussi. Appelez-nous supporter Monégasque, supporter Montpellier bien grave, sûr, pour évoquer la nouvelle sortie de route de l'AS Monaco de Leonardo Jardim, Fred Hermel au programme également, L'Oréal, Simone Rovera, Eden Hazard a marqué, Ribéry, on parlera de Ribéry dans un instant bien sûr, à tout de suite.
RMC, l'Afterfoot, Nicolas Jamain.
Ludovico Bragnac, Jonathan Macardy, c'est l'after comme tous les soirs. On est ensemble jusqu'à minuit, bien sûr, à la télé sur RMC Sport News et à la radio sur RMC. Bienvenue pour ceux qui nous rejoignent. Messieurs, le rugby, duel entre invaincus, entre le Loup, Lyon, face à l'UBB, l'Union Bordeaux-Bègles, Edouard G.
Les Lyonnais tenaient absolument à leur invincibilité. Ils ont été bousculés en première période. Ils ont été menés 20 à 10. Ils ont été vexés à la mi-temps. Ils sont revenus les premiers. Ensuite, ils ont été motivés. Ils ont tremblé sur la fin, mais au final, ils ont gagné 25-23 grâce à un coaching avec bien évidemment Bastaro Doussin sur le banc. C'est ça qui a fait la différence. C'est Doussin qui a marqué l'essai de la gagne avec des Lyonnais. Donc ils font la copie parfaite. 6 matchs, 6 victoires et qui confortent leur place de leader après cette victoire au bout de leur force face à Bordeaux 25-23.
Mais Doudou, à vous, tu t'en moques. Bien sûr.
Non, mais c'est beau le rugby aussi. C'est beau. Ouais, c'était un beau match.
T'as d'autres chats à fouetter là. T'es chaud pour demain.
J'aime tout l'esprit. sport.
C'est comme Silvinho, là, tu tapes dans les mains des supporters.
C'est vrai.
Ça, c'est demain. Il faut faire match après match.
Édouard Jean qui sera, demain, bien sûr, à Geoffroy Guichard pour le derby entre Saint-Etienne et Lyon. Le 119e, bien sûr. Alors, celui-là, il est croustillant.
Pas le bien, hein, pas le 119e pour moi. Mais...
Ouais, toi, c'est le 92e, je crois, un truc comme ça, quoi. Croustillant, ouais. Sexy, avec un Puel qui revient pour apporter son ancienne équipe.
Silvinho survolté.
Un Silvinho en transe totale,
le
gars.
Il a fait le contrôle antidopage, là, Silvinho.
Ouais, je crois qu'il est bien, là. Merci.
Il nous régale.
Allez,
bon
after.
Excellent soir à toi, Edouard.
Monsieur, justement,
qui a dit, on est sur RMC, ouais. Il ne méritait pas que je tienne les propos que j'ai tenus à son encontre. Je suis triste de lui avoir fait de la peine et je le regrette profondément.
Cahiazzo, Romeyer,
apparemment, Gislain Printemps.
Eh ben, enfin.
Ça y est, il a pris la parole aujourd'hui pour s'excuser.
Bah,
enfin,
merci.
Moins des choses.
Mais il explique en fait que c'est aussi parce que depuis quelques temps, il a eu des contrariétés. Arrivé à la conférence de presse très énervé. Je me suis emporté à tort et je regrette sincèrement les propos tenus à l'égard de Gislain. Car c'est quelqu'un que j'aime bien et qui aime profondément les Verts. Et comme avec des gens que j'aime bien, je les pourris plutôt. Je suis comme ça.
Faute avouée, à moitié pardonnée.
Bon, alors voilà. On passe en tout cas.
C'est déjà ça. Allez, on passe. Ouais. Monaco a sombré à nouveau. Après deux victoires encourageantes, Monaco a sombré. Attendez les gars, soyons modestes aussi. Hein. Monaco a été.
Monégo. Ouais. Ils sont pas go. Ouais.
Monégo a été battu ce soir. Sois modeste, Jonathan.
Je suis surpris.
Par Montpellier, 3-1.
Il faut être modeste parce que tu as raison de le signaler. On avait vu Dijon aussi en grande difficulté et on les avait presque condamnés déjà et ils viennent de gagner 2.
Dijon est 18e.
Le football, voilà. Faut faire très attention à ce qu'on dit parce que ça va vite dans un sens.
Est-ce que tu dirais Strasbourg que la vérité du jour n'est pas celle du lendemain?
Exactement, mais j'avais pas envie de tomber dans les clichés.
Moi, je ne le dirais pas parce que Dijon-Strasbourg peut avoir une analyse qui sera plutôt sur Strasbourg, mais là, par rapport à Monaco,
on y va. Je rappelle les buteurs: Mollet, Pedro Mendes, Andy Delors pour Montpellier, Wissam Ben Yedder, le pauvre Wissam Ben Yedder qui a réduit l'écart à la 69e, 3-1, 6e but pour lui, mais ça ne sert strictement à rien. Monaco s'incline encore une fois. Monaco est aujourd'hui 14e de Ligue 1, 9 points sur 27 possibles, 19 buts encaissés. Pire défense de Ligue 1, clairement. Pire défense de Ligue 1 après 9 journées. Tiens, on va commencer par Ramzy au 32-16 qui nous a appelé. Après, je vais vous entendre, messieurs Jonathan et Ludo, sur la défaite monégasque. Salut Ramzy.
Bonsoir les gars.
Salut Ramzy. Alors, toi, je crois, on m'a soufflé dans l'oreillette que tu pointes, c'est pas que de sa faute, un joueur qui t'excède particulièrement à Monaco.
En fait, il y a, je pense qu'en plus le schéma de Jardim, le 3-5-2, en fait, qui a un peu sécurisé l'équipe sur les trois derniers matchs. Moi, j'y ai jamais cru et objectivement sur ce schéma, je sortirais Fabregas. En fait, je sortirais Fabregas du 11 titulaire. Je trouve que Fabregas
titulaire.
Ouais. Il a joué ce soir. Vous êtes sûr?
Il a joué, il a fait un beau match, je crois que c'était contre Nice, mais en fait, on en a fait des caisses, mais la réalité, c'est que l'opposition niçoise au milieu de terrain, c'était très très faible là. Et Fabregas, je pense qu'il est amorti, on va dire, il est rentabilisé, je pense, mais je pense que Fabregas, je vais sortir du 11. Et l'autre sujet, c'est le couloir droit où Gelson Martins joue le piston, défensivement, il est impliqué sur un début, là, et c'est souvent le cas. Donc ce schéma, j'y crois pas. Et de toute façon, voilà, on est arrivé à Montpellier de façon assez convalescente en réalité, et on est retombé dans les mêmes travers avec une défense apathique, avec un marquage élastique.
C'était
un match charnière ce soir. Si on gagnait ce soir, si on prenait 11 résultats à Montpellier, je pense que ça nous laissait dans une bonne dynamique. Mais là, ça sent la saison galère en fait.
Le problème, il est profond, hein, j'ai l'impression, bah, Ludo. Même si tu gagnes ce soir, à mon avis, il y a trop de boulot encore.
Je suis pas tout à fait d'accord avec Ramzy dans le sens où cette défense à le 5, elle pourrait fonctionner, mais elle pourrait fonctionner avec d'autres personnes. Quand tu as été chercher Ruben Aguilar, qui est quasiment un des meilleurs arrière-droits de la saison dernière français. Donc tu le recrutes. Bon, certes, la dernière fois, il avait été un peu blessé, donc il était rentré en fin de match. Ok, on peut le concevoir. Mais là, tu l'as avec toi. Tu joues à 5 et tu mets Gelson Martins dans le couloir.
Bien sûr.
Alors là, explique-moi. Ensuite, André Silva, qui a bien tenu la baraque quand ça allait mal. On peut associer les bons matchs de l'AS Monaco quand André Silva était là, sur le banc. Donc après, que ce soit une histoire de système, pas de système, c'est surtout les hommes que tu mets dans le système pour l'animer. Est-ce que refaire venir, tu gagnes sans Glick, tu reviens et Dieu sait que je l'aime, Camille, parce que j'étais en sélection avec lui, je l'adore, c'est un garçon formidable, mais force est de constater qu'il est plus au niveau. Il est plus au niveau dès qu'il est là, c'est et il transmet. Je sais pas si Maripane, je sais pas ce que ça vaut, mais en tout cas, ce qui est transmis par les mecs à côté ne font que Maripane. Il passe complètement à côté.
Moi, je vais te dire, Maripane, toutes les fois que je l'ai vu en sélection avec le Chili, il était bon. Et j'ai l'impression que c'est son frère qui joue vraiment.
Bah quand t'es au milieu des deux autres, comment tu fais ?
Je sais pas. Parce que franchement, j'ai l'impression que c'est là, je suis assez circonspect quand je vois ses prestations. Il a fait notamment une très belle Copa América et depuis qu'il a été installé dans le 11 de départ chilien, il donne satisfaction. Après, Ludo a raison. C'est que j'ai l'impression que Jardim, en fait, tactiquement, il a un petit peu le cul entre deux chaises. Je pense que cette idée de jouer à 3, en 3-5-2, c'est une bonne idée. Comme tu le disais, t'as été chercher Ruben Aguilar, qui était le meilleur latéral, peut-être l'un des meilleurs latéral droit de Ligue 1, qui est un joueur de 3-5-2. Pourquoi tu ne le mets pas? Mais surtout, la vraie question.
Quand il le fait rentrer, il repasse à 4.
Ça n'a ni queue ni tête. Et surtout, là, moi, je veux m'arrêter sur un cas, c'est celui d'Adrien Silva. Adrien Silva, il a le profil idéal pour jouer en 3-5-2, juste devant la défense, dans ce bien poste sûr. Que Bielsa appelle le rôle de voltigeur. C'est le milieu qui fait, lors des phases de transition, est quasiment quatrième défenseur central. Et en fait, le fait de vouloir d'insister de mettre Fabregas, je trouve qu'il rend, c'est ça le pire, je trouve qu'il rend Golovin. Ouais, c'est Golovkin combat ce soir. Triple G combat ce soir. Il rend Golovin et Bakayogo très mauvais.
Mais tu sais, c'est pas un peu comme quand tu fais un buffet, là, t'es au flunch, t'as plein de plats, tu sais pas quoi choisir, mais t'as 40 entrées.
Je vais pas au flunch perso, mais
25 desserts.
Si toi tu vas au flunch, c'est un problème, mon pote.
Tellement, tu sais plus quoi faire, tu prends les mauvais plats.
Il a trop de joueurs.
Moi, je dis qu'il faut.
Mais non, parce qu'il joue avec les mêmes tout le temps. Il tourne avec 14-15 joueurs. Au final, il a un effectif qui est superlatif en termes de quantité, mais il tourne avec les mêmes joueurs. Mais sauf qu'il les positionne très mal. Et c'est là où je dis que Leonardo Jardim est totalement perdu. C'est qu'il a fait des choses extraordinaires avec Monaco. Parce que là, je vois qu'il prend cher en ce moment sur les réseaux sociaux. Mais n'oublions pas ce qu'il a fait avec Monaco. Le titre de champion, les épopées en Ligue des Champions. Mais tout simplement, il est cramé. C'est tout.
La vérité, Ramzi, c'est que autant cette équipe est coupée en deux. C'est-à-dire qu'elle est, elle est brillante offensivement quand défensivement ça peut un peu tenir la baraque. On l'a vu contre Nice et on l'a vu contre Brest, mais ce n'était que Brest. Là, forcément, on attendait de voir la semaine dernière, on en parlait. Monaco gagne 4-1 à Brest. Tout le monde nous a dit, ou beaucoup de gens nous ont dit, mais oui, c'est le renouveau de l'AS Monaco. Vous nous avez critiqué à tort. La saison est lancée. Mais ok, pourquoi pas. Mais on attendait de voir. On a dit, attendez, on va quand même voir contre une attaque un peu plus chevronnée. Et puis on verra ce que ça donne.
Et attends, t'as dit, ils sont brillants offensivement. Ouais. Je suis pas d'accord du tout. Ils sont pas brillants offensivement. Ils sont brillants individuellement. Non, deux, mais collectivement, offensivement, il y a rien.
Disons que les deux devant sont brillants. Golovin a été bon aussi.
Offensivement, t'es sévère. Parce qu'offensivement, franchement, dans l'animation, devant, c'est la seule chose qui tient à peu près la route.
Balotouré et Jelson Martin, ils t'apportent beaucoup en termes de centre et de jeu sur les côtés.
Balotouré, très sincèrement, je donnerais sa chance aux petits Zagres. Parce que je pense que Balotouré, je suis assez déçu, moi, depuis la saison dernière, en fait.
Il n'est pas milieu de terrain central, Zagre ?
Non, c'est un latéral gauche.
Ok. Mais pas pour moi.
Paris Saint-Germain.
Ok, merci.
Un petit très prometteur côté gauche. Non. Mais offensivement, malgré tout, c'est une des satisfactions qu'on a. Ben Yedder, très sincèrement, Ben Yedder, on le connaît. Ben Yedder, il a porté le TFC pendant 5 ans à lui tout seul. Il était entre 15 et 18, qui se faisait tout seul. C'est un attaquant qui.
T'as raison, Ramzi.
Comment ?
T'as raison, Ramzi.
Mais moi, j'ai mal au cœur pour lui, là. Chaque fois qu'il sort, il prend la tête à la main, il doit se dire, mais qu'est-ce que je suis venu faire là, quoi? Jouer la carte de l'euro.
Ce qu'il est venu faire là également, il n'y a pas que des raisons football également. Il a signé un contrat de 5 ans, net d'impôts à Monaco. Je crois qu'il met à l'abri tout le monde.
La vie est belle, les locales de vie est beau.
Il fait ce qu'il veut, évidemment.
Il a rien à se reprocher.
Ah non, mais je dis rien.
Lui et Slimani.
Mais il est aussi venu pour moi.
Mais c'est aussi, c'était le club de son cœur depuis qu'il était gamin, et ça, pour le coup, c'est vrai.
Ludo, tout ça pour finir mon raisonnement. C'est que cette équipe, comment les dirigeants n'ont pas pu se rendre compte des faiblesses défensives et de pas réajuster ça pendant le mercato et d'avoir acheté 10 joueurs à vocation offensive. Mais c'est ça, il est là le drame.
Bah, tu me dis sur
il est là le drame
de Glick qui a été tellement fort il y a 3 ans.
Il est là le drame. Ludo, c'est que t'as 77 joueurs pro sous contrat. Bah 77 joueurs pro et dedans t'as pas deux défenseurs centrales qui tiennent la route. Quoi.
Bah merci Ramzi.
Ciao Ramzi.
Merci Ramzi.
Allez, bon courage.
Je te rappelle quand tu veux dans l'after, bien sûr, le samedi soir notamment. Romain est avec nous, supporter monégasque.
Oui.
Salut Romain, bienvenue.
Salut Romain.
Avec Jonathan et Ludo, on t'écoute bien sûr. Toi, t'as un avis très tranché sur le coach monégasque.
Salut Romain.
Ouais, tout d'abord, félicitations à Montpellier. Très belle équipe.
C'est beau.
Très bon match ce soir. Donc, moi, je voulais revenir en particulier sur Leonardo Jardim.
Donc ça fait 6 ans qu'il est au club. Bon, c'est vrai que tout ce qu'il a fait pour Monaco, surtout en 2017, c'était une saison magnifique. Mais là, ça suffit, quoi. On n'a pas pu. Je pense qu'il y a un gros problème en interne, quoi. Quand on voit Monaco, le potentiel qu'ils ont, le collectif, il y a rien. Il y a pas de fond de jeu, il y a rien. Offensivement, ben oui, on a du talent. Dès qu'il y a des équipes un peu plus faibles comme Brest, on met 4 buts. Mais quand on voit le match de ce soir, il y a pas de fond de jeu. Il n'y a pas de fond de jeu. Et les choix de Jardim, on remet Glick capitaine. On insiste avec Glick, Jemerson depuis l'an dernier. Même avec Henry, ça ne fonctionnait pas. On fait revenir Jardim. Enfin, moi, je sais pas, vous avez vu le match comme moi ce soir. J'ai observé Jardim sur le banc de touche. Il ne bouge pas. Il y a 2 ans en arrière, Jardim, il court partout. Il était comme un fou, comme un gosse au bord du terrain. Ce soir, on le regardait les bras croisés.
Ouais, je crois que.
Moi, je pense qu'il y a un problème interne. Le discours ne passe plus, quoi. Quand on voit Jemerson Glick, c'est la charnière centrale qui a été championne en 2017. Au jour d'aujourd'hui, il n'y a aucune sérénité. Aucune sérénité. Les mecs, ils n'ont pas changé, quoi. Ça fait 2 ans. Mais je pense que le discours du coach ne passe plus. Là, je préférerais perdre contre Nice et Brest et que puis elles viennent. Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je pense que Jardim, ça suffit, quoi.
Mais
moi, je te suis dans ton raisonnement. Autant on peut avoir énormément de respect pour ce qu'a fait Leonardo Jardim par le passé, mais autant on peut être en droit de constater que ce n'est
exactement
plus l'homme de la situation. Je n'ai pas trouvé qu'il y a eu un réel apport, un effet Jardim, même quand il a remplacé Thierry Henry.
Aucun, pas du tout, aucun, voilà. Jardim est revenu, voilà. Il s'est maintenu à une tournée avant la fin.
Mais les deux.
Thierry Henry n'aurait pas fait pire, quoi.
Les deux, c'était des erreurs de casting. La première erreur de casting était de prendre Thierry Henry, et la seconde erreur de casting était de faire revenir Leonardo Jardim.
Parce qu'il y a un malaise. Quand on a parlé de Fabregas juste avant. Quand on voit la sortie de Fabregas, il passe derrière Jardim, pas un regard, pas une
croisée. Ouais.
Je pense que vraiment, il y a un malaise, quoi. Il y a un malaise dans l'équipe. Et on le voit, les joueurs, ils baissent la tête. Même Ben Yedder, il a joué tout le match avec la tête dans les chaussettes. Et je pense que il y a un problème, quoi.
Après, est-ce que les dirigeants accepteront l'humiliation de virer deux fois le même coach en l'espace d'un an?
Voilà, messieurs, c'est jackpot. Oui. Jackpot, messieurs.
Ah, pour lui, oui, pour lui, jackpot.
Une opération financière
extraordinaire.
Mais là, il en va quand même à un moment donné. Monaco, on va être assez clair là-dessus. Monaco a frôlé la correctionnelle la saison dernière. Ils sont déjà descendus il n'y a pas si longtemps que ça. Et s'ils n'arrivent pas à apprendre de leurs erreurs.
Ce qui fait très peur, c'est que j'espère qu'ils vont pas vouloir mettre le pansement sur la jambe de bois et répondre en réachetant un wagon de joueurs au mercato hivernal.
Merci Romain d'avoir appelé le 32-16.
Merci à vous.
Salut Romain.
Bon courage à toi cette saison, bien sûr. Monaco 14e avec 9 points seulement. Pire défense, on a dit 19 buts encaissés déjà, c'est infamant. On ne doit pas être trop loin de nombre de buts encaissés quand ils sont champions de France.
Mais
il y a 3 ans.
Les gars, il n'y a pas je ne sais plus si ce n'est pas le but de Delors là. Il vous a pas rappelé
le but de Brest.
Exact, ouais. C'est la même situation avec Glick qui fait le plot, Maripane qui fait semblant de se jeter.
Un contre deux et perd de vue.
Mais c'est la même chose.
Perd de vue l'attaquant.
On est d'accord, c'est le même but.
Exactement le même.
C'est la même but.
Extension de 5 cm
de
Maripane et de Glick.
On l'a dit pendant le multiplex.
On vient dans un instant, messieurs, pour l'after. On est ensemble jusqu'à minuit. Jonathan Macardy, Ludovic Obraniak, bien sûr. Rappelez-nous, 32-16 supporters, tiens. Supporters bordelais et parisiens aussi. On va revenir sur les succès bordelais. C'est vrai, Bordeaux commence doucement, encore une fois, à construire sa saison. Bordeaux est 4e de Ligue 1 ce soir, provisoirement, bien sûr, avec 15 points. Et le PSG a-t-il réalisé son meilleur match, en tout cas le plus abouti cette saison, en Ligue 1, le 32-16, le hashtag RMC Live. A tout de suite.
RMC, l'afterfoot, Nicolas Jamain.
Avec Jonathan Macardy, avec Ludovic Obraniak, Fred Hermel, Simone Rovera sont dans le sas. S'ils s'approchent de l'after, ils seront avec nous pour évoquer notamment le Real Madrid et le choc. Ça va, Jonathan? Tout va bien?
Pardon?
Voilà, on continue l'after jusqu'à minuit.
Il me faisait.
Non mais les gars, on reprend. Les gens nous écoutent.
Il me vantait les qualités de Mitroglou.
On parlera pas de Marseille ce soir, bien sûr. On parlera dans un instant de la victoire bordelaise 3-1 sur la pelouse de Toulouse. Putain, mais tu trembles?
Pas du tout.
Autorité?
Pas du tout.
T'as promis ce qu'on va avec Ludo, hein?
Je tremble. Je tremble face à toi, mon poulet.
T'es pas bien, sur un petit Sportnews, on voit, regardez, la pupille dilatée, là, il est pas bien.
Oh, ça va, c'est
Jonathan Macardy. Parlons quand même de Montpellier rapidement, parce que Montpellier était fort et solide ce soir. Florent Mollet, Pedro Mendes, ouais. Andy Delors, Ludo, Montpellier, vainqueur 3-1, face à Monaco, Montpellier qui enchaîne, Montpellier qui est désormais au classement 6e, 14 points.
Ce qui est le plus dur dans le football, c'est de confirmer. On avait vu une lumineuse équipe de Montpellier la saison dernière. qui a certes fini un peu difficilement, mais qui tout au long de l'année nous a la plupart du temps enthousiasmé, on va dire, avec notamment ce trio d'attaque hyper complémentaire. Et puis là, à l'intersaison, on s'est dit bon, avec l'arrivée de, ils ont perdu quasiment personne. L'arrivée de oui, mais très bien remplacé par Souquet finalement, qui nous fait un très bon
et Rouli,
qui fait un très bon début de saison. Eh ben, on peut que se dire, avec Ferry pas là, Savagnier pas là, mais qu'est-ce que ça va donner quand tout le monde sera là? Jusqu'où va pouvoir aller cette équipe?
Quand Savagnier sera là, ça va être 13 buts, 13 passes, c'est son dernier, le meilleur passeur de la Ligue.
Ce qui est assez subjugant dans le match de ce soir, c'est qu'en fait, t'as les opposés qui se sont rencontrés. D'un côté, t'as une équipe qui est totalement paumée, qui a pas de personnalité. Et de l'autre, t'as une équipe qui, elle, a des certitudes dans le jeu, qui a une très forte personnalité. Alors, on aime ou on n'aime pas le style, mais c'est une équipe qui sait exactement là où elle veut aller et ce qu'elle veut faire quand elle aborde un match. Alors on leur a beaucoup tapé dessus à Montpellier après ce match, notamment au Vélodrome, où c'est vrai qu'ils ont mis le bus, mais je trouvais ça un petit peu injuste parce que cette équipe, en fait, à chaque fois que tu la vois jouer, tu sais comment elle va jouer, tu connais les ingrédients qui vont être mis en place, les joueurs, tu sens que voilà, il y en a aucun qui tire au flanc. Et effectivement, je vous rejoins, parce que là, quand tu vois comment ça joue avec le trio, la Mollet, la Borde, Delors, qui a été très bon soir, quand tu vas leur adjoindre deux milieux de terrain avec la qualité de passe qu'ont Jordan Ferry et TJ Savagnier, ça peut être un très sérieux prétendant au top 5.
Et puis, pour aller dans la continuité de ce que tu dis, le trio, il est complètement décomplexé et il n'est pas sous pression parce qu'ils savent que derrière... Oh, ça tient la baraque. Montpellier encaisse très peu de buts.
On en parle d'Hilton
avec,
encore ce
avec,
soir.
Avec un défenseur qui a 42 ans,
Hilton. 42.
Mais on en parle en fait de sa saison là, de son début de saison.
Et 7 buts encaissés Montpellier, c'est
énorme.
Saison.
Et qui jouerait en défense centrale de l'AS Monaco et dans beaucoup de défenses centrales, les doigts dans le nez. À côté de lui, Pedro Mendes, joueur de devoir, important sur les coups de pied arrêtés, bonne relance. Non, ils ont dû aller chercher Souquet qui aussi était parti dans l'oubli un peu du côté de la Belgique, parce que je dis pas que là où il était c'était un club pas important, mais c'est vrai qu'on suit un peu moins le championnat belge. Donc du coup, le fait d'aller le rechercher, c'est quand même une bonne pioche. C'est Onyango qui est côté gauche.
Gauche, ouais.
Non, cette équipe, elle se connaît parfaitement.
Il y a une stat que me souffle Geoffrey Charpie, notre producteur ce soir, qui me dit en 9 matchs, Vittorino Hilton, c'est 8 fautes.
Ouais, 8 fautes commises. Il est très fort.
Ah oui, non,
mais il n'est pas dépassé.
Le mec qui défend
il est intelligemment. Mais juste par rapport à cette défense, il y a une chose qui est intéressante de remarquer, c'est qu'en fait, tu as deux membres fixes de cette défense que sont Hilton et Pedro Mendes, et qu'en fait, en fonction de l'avant-centre, du profil des attaquants adverses, ils change soit Kodza, soit Daniel Congré. Là, tu avais un profil d'attaquant quand même rapide comme Ben Yedder. Bam, il met Kodza, qui a plus de vitesse que Congré. Je trouve que voilà, Der Zakarian gère son équipe très intelligemment.
Mais c'est aussi une grande leçon que donne Montpellier à Monaco ce soir. C'est dans la continuité pour construire une équipe. Et tu construis une équipe performante quand à un moment donné, les mecs ont quand même l'opportunité de jouer ensemble un peu plus que 6 mois. Ces mecs-là se connaissent parfaitement.
Mais il y a un projet structuré.
Ils ont fait, c'est un projet structuré. Les mecs ont performé ensemble un an. Ils sont quasiment
tous.
Des petites retouches, tous quasiment renouvelés. Ils ont assuré ce qu'ils devaient faire, probablement avec la Borde, qu'ils ont prolongé Delors et Mollet. Je crois que Mollet a prolongé lui aussi. Et voilà comment.
Et le petit jeune qui rentrait là, Souleymane Camara, c'était pas mal, hein.
Ouais, 88 ans à eux deux, je crois, Camara et Hilton.
Ouais, c'est vrai.
Voilà pour Montpellier, donc, qui remonte au classement 6e de Ligue 1 désormais. Bordeaux s'impose.
Oh,
Bordeaux
content,
indigent il y a une semaine. Bordeaux brillant au stadium. Enfin, alors, toute proportion gardée, Toulouse fantomatique. Alors, t'avais 11 fantomas sur le terrain ce soir. 3 buts à 1, but le but plus rapide de la saison en Ligue 1. 56 secondes pour Depréville, qui avait ouvert le score pour les Girondins de Bordeaux. But de Wang également et Pablo de la tête aussi. On est avec Gino, supporter bordelais. Merci d'être avec nous, Gino. Bonsoir.
Gino.
Salut.
Salut, Gino.
Salut. Écoute, ça fait plaisir cette victoire, j'imagine.
Oui, le fond, la forme. Plaisir. Après, c'est dans le processus un peu de Souza qu'on a enclenché depuis quelques temps. Mais c'est une victoire assez nette et face à un Toulouse qui est vrai n'était pas une grosse équipe ce soir, avait pas une grosse maîtrise par rapport à nous. On a fait le match qu'il fallait.
Bordeaux 4e ce soir, 4e de Ligue 1, 15 points, ça commence à avoir du sens pour les Girondins de Bordeaux bien sûr. Ludo le disait à l'instant, enfin tout à l'heure, il commence à voir la patte Souza dans ce jeu bordelais.
Ben, il a beaucoup. Ouais, mais depuis pas mal de temps, même quand il est arrivé, même si les premiers matchs étaient très difficiles, il a déjà instauré son système, ses idées. Donc moi j'adhère totalement. même si le groupe n'est pas d'une très grande qualité, on voit qu'il tire pour moi le max presque de cette équipe, même s'il y a des jeunes qui sont en progression et des mecs sur qui on peut s'appuyer comme Depréville, Otavio qui réalise vraiment un bien meilleur début de saison, donc il y a de très bonnes choses.
Mais déjà pour commencer sur ce match-là, on va avoir une pensée pour les supporters toulousains.
Oui.
Et célébrer ça. Je sais pas quel mot choisir.
En tout cas,
rendre hommage à Brice Tatton.
La mémoire de Brice Tatton décédé à Belgrade en déplacement.
Il y a 10 ans. Ouais. Donc ça, c'est le premier point sur ce match-là. Mais pour revenir à ce que Bordeaux a proposé, ce qui est bien, c'est qu'on voit, beaucoup de jeux sur les côtés. J'aime bien les doublettes là ce soir sur les côtés avec Benito et Camano. Je trouve que ça peut fonctionner sur la durée. Et encore une fois, je voulais le souligner, mais tu l'as fait, c'est le début de saison d'Otavio qui a beaucoup été décrié, mais qui me semble assez solide, qui fait son travail. Alors oui, techniquement, c'est pas le meilleur joueur possible, mais il récupère les ballons, il fait le travail, il équilibre pas mal, il aide pas mal ses défenseurs centraux. Et Nicolas Depréville, je trouve que c'est un autre homme avec Paolo Sousa.
On l'a retrouvé, je crois.
Là, vraiment, on peut vraiment dire que c'est bon, il a remis sa carrière dans les rails. C'est le joueur qu'on attendait qu'il soit lorsqu'il arrive à Bordeaux.
Passeur et buteur ce soir.
Là où on peut vraiment sentir la touche Sousa, c'est qu'il a beaucoup tâtonné. Il a essayé à 4, il a essayé à 5, il a changé les hommes, il a mis des
joueurs. Non, c'est pas vrai du tout. C'est pas vrai du tout.
Bah bon, c'est pas vrai du tout.
Non, pas du tout.
Vas-y, précise, Gino. Donc,
il a jamais changé de système.
Il a jamais joué à 4. Vous avez jamais.
Non.
Si. Mais arrête de raconter n'importe quoi. Vous avez joué à 4 derrière, arrête de dire n'importe quoi.
Je vais te
trouver. On va te retrouver le match. Si, tu t'attends.
Je vais te trouver le match.
C'était à 2 journées, 2-3 journées.
Ludo, excuse-moi, regarde bien les matchs depuis que tu
Je regarde pas tous les matchs, mais j'ai vu un match de Bordeaux, vous avez joué à 4 derrière.
C'était à 2-3 journées, on va te le retrouver.
Mais non, il a le même fonctionnement, notamment quand on a la balle, quand on a le ballon. Et quand on défend toujours de la même manière. Non, franchement, il a essayé justement d'imposer son système.
Donc contre Lyon, t'as pas joué à 4 derrière.
Voilà.
Regarde.
Première journée, Angers-Bordeaux, voilà. Benito, Pablo, Mecher, Bellanova, 4 derrière.
Contre Lyon, voilà. C'était à 4, ouais, c'est
donc,
ça.
Donc ne raconte pas n'importe quoi.
Bon, Gino, croyez.
Contre Lyon, c'était quasiment la même équipe.
Donc on voit pas les matchs. Je sais pas ce que c'est une défense à 4, je sais pas ce que c'est une défense à 5.
Gino, t'es avec Simon Ludo.
Mais non, mais c'est dingue.
Gino, tu avais joué à Bordeaux et ça, et 4ème de Ligue 1 ce soir.
Ludo, pas grave.
Non mais attends, tu vas pas me taxer moi qui joue au Girondins de Bordeaux de dire que j'ai vu des matchs du Girondins de Bordeaux et que j'ai pas remarqué qu'ils jouaient parfois à 4. Quand même, s'il vous plaît.
Il y a quelques matchs, il n'y en a même pas un seul, il y en a plusieurs. Ouais. Bordeaux a joué à 4, notamment en début de saison.
Avec Quateng là beaucoup là.
Merci Gino, mais tu rappelles
Gino.
On va organiser des retrouvailles en tout cas avec Ludo Bragnac.
Mais il y a pas.
Tu enverras un maillot des Girondins de Bordeaux sûrement.
J'en inquiète pas sur un ring, il pourra.
A tout de suite.
RMC. Welcome, Silvino. Are you okay? And are you happy to be here?
I am very happy to be in the big club Tottenham.
Jusqu'à minuit, c'est l'afterfoot.
I want to win here, you know, before. And after that, we will see. Or we go to fish. Hein?
Nicolas Jamain.
Yes, it is the afterfoot avec Ludovico Bragnac, Jonathan McCarty. On est ensemble jusqu'à minuit, bien sûr. Fred Hermel, Simone Rovera arrivent. Ils sont dans les stands. On déroule le fil de la Ligue 1. Julien Laurence sera avec nous pour parler notamment de Liverpool qui enchaîne. Incroyable Liverpool, 8 matchs, 8 victoires en Première Ligue.
Donc on parle plus de Bordeaux là. Fini.
Attends, je tease la suite de l'émission.
Est-ce qu'on a
Ludo en tension? Ça me rappelle son époque bordelaise quand il prenait un coup et qu'il attrapait le gars.
Ça pour un mec qui s'est pas envoyé un direct.
Je l'insultais parce qu'il prenait des jaunes parfois parce qu'il pétait un plomb.
Est-ce qu'on est sûr que toutes les drôles de dames là, ce dont elles vont nous parler, c'était mieux que la soirée qu'on a vécue de Ligue 1? Parce que franchement, ce soir, c'était bien.
Sincèrement, on vit depuis le début de la saison des bons samedis soirs.
Oui, hein, faut le dire. Vrai.
Parce qu'il y a beaucoup de prétendants maintenant aux places européennes.
Avec beaucoup de buts.
Des Nantes, des Nice, des Bordeaux, des Montpellier. Exactement. Et des buts également. Énormément de buts, j'ai pas fait le compte, mais on va le faire.
Parce que on le dit souvent quand ça va pas, mais là, faut dire cette année, c'est pas mal.
Sauf qu'il y a aussi des situations un petit peu plus compliquées pour certains clubs. On pense à Toulouse. Ah. On est avec Thomas, supporter du TFC, du TEF, qui est avec nous. Salut Thomas.
Salut les gars.
Salut Thomas.
Bon, alors, rien de dramatique pour l'instant en classement pour Toulouse, Thomas. Hein. Toulouse est 16e de Ligue 1, 9 points en 9 journées. Évidemment, c'est un bilan très moyen, mais qui ressemble au bilan toulousain ces dernières saisons. Comment tu te sens, toi, ce soir, après cette défaite?
Je me sens autant plus que si j'avais été trompé par ma copine, quoi. C'est catastrophique. C'est catastrophique, ces entames de match. C'est, tout est catastrophique. On joue un quart d'heure par week-end. Est-ce que vous en rendez compte? Un quart d'heure par week-end. Quand vous jouez contre Metz et tout, vous pouvez ramener un point. Mais quand vous jouez contre Bordeaux, eh bien, vous prenez une tannée. Et là, ce soir-là, encore une fois, eh bien, j'espère qu'il y avait M. Olivier Sadra.
Très discret, lui, ça. On n'entend plus beaucoup. Ouais.
Tout ce qui s'est passé, quoi.
Ouais, je comprends pas.
Parce que dingue, Toulouse qui prend tous ses buts en début de match. Ouais. Hein, début de
je comprends pas, parce que quand tu regardes les noms des joueurs qui sont alignés dans l'once de départ, ouais, je te vois faire la moue, Nico, mais c'est quand même pas dégueulasse. T'as quand même le petit Koulouris qui est une belle découverte, Maxime Agradel qui est un très bon joueur de Ligue 1, t'as quand même Wesley Saïd qui, bon, on pense qu'on en veut, mais c'est quand même un joueur qui est technique. Au milieu de terrain, William Vainqueur avait montré des belles choses.
Non,
en termes de stabilisation. Juste pour finir, le problème, c'est Casanova. Qu'est-ce qu'il fait avec son équipe? Quel est son projet de jeu? Comment il fait jouer son équipe? Je suis désolé. Le groupe de joueurs n'est pas si dégueulasse à Toulouse.
Moi, je veux bien, je l'entends. Mais... Ok. Est-ce que tu peux me permettre juste deux secondes? Je voulais. Il y a un truc qui résume cette soirée. On peut éventuellement parler d'Alain Casanova, hein, forcément. Il est remis en question par rapport au résultat. Mais quand tu entames le match dans un derby, enfin, qui est considéré comme le derby de la Garonne, et que tu prends un but au bout de 20 secondes,
56
et quand, ou 50 secondes et quand deuxième et que tu rattaques la deuxième période avec exactement la même action au bout de 30 secondes qui aurait pu faire but à nouveau, bah, et tu peux pas exclure que les joueurs ils y sont pas non plus.
Et qui n'écoute
pas sur un derby, tu viens d'aller arracher un point à Metz qui est miraculeux. Ce point, tu es d'accord avec moi?
Oui,
de partout dans les arrêts.
Il est miraculeux ce point.
96e.
Tu te dis il y a le derby qui arrive. T'es à domicile, tu vas attaquer le match tambour battant.
Avec une dimension un peu émotionnelle aussi, symbolique par rapport à Bristaton. Et puis il voulait rendre hommage.
Oui, mais bien sûr. Mais c'est comment tu prends le but. Au bout de 50 secondes, ton équipe, elle est coupée en deux. Tu joues Bordeaux, je crois, sur la contre-attaque. Ils jouent un 4 contre 2 ou un 4 contre 3.
Oui, c'est ça.
Hein, c'est ça.
C'est ça. Et puis, non, mais c'est ça. C'est exactement ça. C'est exactement ce que tu dis. Mais c'est ça. Mais Ludo, c'est toi là?
Oui,
c'est Ludo Bragnac qui est là ce soir.
Vas-y. Tu veux pas lancer ta carrière d'entraîneur, là?
J'aimerais bien.
Tu veux pas venir au TPC, là, s'il te plaît?
Non, mais
parce que tu feras mieux que celui qui est en ce moment, là. C'est pas compliqué, quoi. Non, mais je sais pas ce qu'il doit se dire dans les vestiaires. Je sais pas s'il arrive à me remobiliser une équipe. Je ne sais pas cet homme ce qu'il est. Mais là, il a un peu d'amour propre. Et s'il aime le club, mais qu'il le quitte, à un moment donné. C'est pitoyable. Il n'y a pas de fond de jeu. Ça fait, l'an dernier, il a dit, c'est une saison de transition. Mais on est toujours en transition depuis l'an dernier, quoi.
Thomas, tu en penses quoi, toi, du groupe de joueurs qui est à ta disposition?
Mais il y a, pour moi, il y a une bonne équipe, il y a des choses à faire. D'accord, il y a quelques blessés derrière, je suis d'accord. Là, il a peut-être une excuse. Mais l'animation offensive au milieu, on se fait manger. On ne met pas le pied, on est des débutants.
C'est vrai.
On ne met pas le pied. À un moment donné, le troisième but, ils font une faute dans le camp bordelais, on ne prend pas ce troisième but. Non, on est là, on les regarde jouer. Ah, ça, on regarde, ça oui. Et on joue un quart d'heure par week-end. Comment vous voulez gagner un match? Comment
t'as
on va
tort.
Jouer maintien encore cette année?
C'est vrai qu'on est triste pour le TFC.
Ouais.
J'ai mal pour mon club. Je supporte ce club depuis 20-25 ans. Peut-être mon père m'a emmené au stade. Je vois des gamins venir au stade. Mais le pauvre père, mais qu'est-ce qu'il dit à son gamin? Il va plus vouloir venir.
Mais puis qu'est-ce que ce gamin, même s'il a 10 ans, il a rien vu à Toulouse quasiment depuis des années, à part un beau maintien avec Bodiger à l'époque. Mais en termes d'émotion, qu'est-ce que t'offres à Toulouse depuis plusieurs saisons? C'est partie des clubs qui malheureusement n'offrent que très peu d'émotions et qui luttent chaque année, mais qui arrivent à se maintenir. Merci Thomas d'avoir appelé au 30.
Thomas.
Eh bien, écoutez, merci à vous.
Salut Thomas et bon courage.
Oui, bon courage. Hein. Tu peux rester, on va t'offrir un maillot de l'after.
Ouais.
Ne raccroche pas.
Mais tu sais, Thomas, je vais être un peu cynique, mais Toulouse frôle la descente depuis presque 2 ans. Est-ce qu'il faudrait pas, est-ce qu'on souhaiterait pas, est-ce qu'on souhaiterait pas presque au TFC?
Mais qui arrive
un accident pour qu'il se passe quelque chose. Parce que ce club est dans l'anonymat complet. Oui. Il traverse les saisons, on n'en parle jamais, il se passe jamais rien.
On en parle à 37e pour le maintien.
Il se passe jamais rien.
Paris, on va pas s'étendre trop sur le PSG qui s'est imposé 4-0 face à Angers. Bon, c'était le choc.
Donc on peut revenir sur Bordeaux.
Mais Bordeaux, ça suffit. Tu veux rajouter un mot sur Bordeaux?
Mais non, mais.
Tu t'es fait attaquer.
Non,
30 secondes.
Putain, il est susceptible la
plupart. Oui, il est susceptible.
Non, je veux juste qu'on m'explique. Certains, donc quand par exemple les Girondins, ils ont joué contre Metz, puisque moi je suis ancien Messin et ancien Girondin, donc j'ai regardé ce match-là.
Mais non, t'étais au bar, arrête. Je me rappelle.
Avec beaucoup de délectation. Qu'on m'explique, quand tu joues à 4 derrière, et qu'on me dit qu'on, donc Bordeaux joue à 4 derrière en phase défensive, mais 3 en phase offensive. Donc expliquez-moi qui de Koscielny, Jovanovic s'intègre dans le milieu de terrain pour jouer sentinelle, ou est-ce que Pablo qui jouait à gauche ce jour-là venait dans un milieu à 3, ou Kouateng? Je sais pas, expliquez-moi, parce que comme je connais pas très bien le football, j'ai besoin qu'on m'explique.
Ouais, donc, ni Pablo ni Kouateng ne peuvent jouer plus haut au milieu de terrain. Donc
expliquez-moi,
ni tête,
expliquez-moi s'il vous plaît. Parce que si on considère qu'un latéral qui monte, il intègre le milieu de terrain et du coup,
ni Pablo ni Kouateng ne peuvent le faire.
Allez, messieurs, on va pas faire le match de Bordeaux, en tout cas la saison, on en reparlera plus tard, bien sûr. Tiens, messieurs, avant qu'on bascule sur le foot étranger.
Dijon
20 secondes, je vous donne la
folie. C'est juste pour dire que Strasbourg, oui, effectivement, c'est très inquiétant et qu'il faut vite qu'ils se remettent la tête à l'endroit parce qu'ils ont le syndrome typique de l'équipe qui a repris très tôt la saison, qui a eu les matchs de phase de poule. Et je suis inquiet pour Strasbourg, c'est même si c'est l'équipe qu'on aime tous.
Mais bon, ils vont se maintenir.
Gilbert Bribois en PLS.
Ils vont se maintenir.
Tu peux considérer qu'à domicile, ils vont quand même prendre un paquet de points.
Ouais. Je voulais juste vous rappeler cette information, une des informations de la journée, le forfait d'Hugo Lloris pour le rassemblement de l'équipe de France qui débute lundi avec La Fontaine pour le match face à l'Islande. À la Turquie, attendez deux secondes, face à la Turquie, c'est une semaine importante pour la qualification pour l'Euro 2020. Luxation du coude pour Hugo Lloris dès la troisième minute dans le match Brighton-Tottenham, sorti sur civière à l'hôpital. Il a finalement pu quitter l'hôpital dans la soirée. On parle de un mois et demi à trois mois minimum avant de revenir sur les terrains pour lui.
Toi qui as l'habitude de te servir de tes bras et qui est dans les sports de combat, est-ce qu'une luxation, c'est pire qu'une fracture?
Je l'ai eu à l'épaule et j'aurais préféré me casser l'épaule. Parce que tu mets plus de temps à récupérer, la rééducation elle est plus pénible, mais un mois et demi, ça me semble être très très optimiste, hein. Mais oui,
un mois et demi, trois mois.
Du moins, à l'épaule, c'est ce qu'on dit, hein. Vaut mieux se casser l'épaule que de se la luxer.
Lloris qui, a quitté les siens à 0-0, il est fautif sur le but de Brighton.
Je sais pas.
Encore une bourde du Lloris.
Non, mais c'est même pas une bourde, je sais pas, il a un appui bizarre arrière. Il capte le ballon normalement et quand il va reposer sa jambe arrière, je sais pas, il y a un bug et du coup il essaye de se rattraper en tombant en arrière avec son bras. Et c'est vrai que l'image elle est terrible.
Et qui c'est qui va jouer en équipe de France? Steve Mandanda.
Mac Maignan a été appelé pour suppléer donc Hugo Lloris forfait pour les deux matchs contre l'Islande et la Turquie. Effectivement, ce sera Mandanda qui avait déjà annoncé.
Phénoméno.
Qui a été annoncé en tant que numéro 2, qui sera donc numéro 1 sur ces deux confrontations, Islande-France et France-Turquie, qu'on verra sur RMC, bien sûr.
T'imagines en milieu de saison dernière, si on t'avait dit que Mandanda reviendrait numéro 1 de France.
Mais c'est ça qui est beau.
Appelé pour la première fois depuis mars dernier, Mandanda. Paris, 4-0 face à Angers, Sarabia, Icardi, Gay, Neymar. Messieurs, tiens, on va la faire, votre taulier de ce match-là. Ok.
Si Thiago Silva.
Moi, je mets Sarabia, messieurs. Un but, une passe. C'est la semaine de Sarabia.
J'ai trouvé Verratti très bon. Alors, il est peut-être moins influent dans, tu sais, ce qui faisait sa qualité au début, tu sais, ses petites passes lobées, ses dernières passes, tu sais, qui transperçaient une défense ou qui lobaient toute une défense. Il le fait un peu moins. Mais dans la récupération du ballon et dans l'activité, je trouve qu'il est exemplaire depuis un certain moment. Peut-être que l'arrivée de Gay lui faut aussi le plus grand bien et qu'il est obligé de se mettre au diapason. J'ai trouvé qu'il avait rayonné sur le milieu de terrain.
On me reprend, mais Sarabia, c'est un but, deux passes ce soir, plus la passe à Istanbul pour la victoire sur le terrain de Galatasaray. On a peut-être en train de retrouver le Sarabia en impact player ce soir avec le PSG. Le PSG qui s'impose 4-0, qui est en tête avec 21 points sur 27 possibles. Est-ce la meilleure, selon toi, Jonathan, prestation du PSG cette saison
en
Ligue 1?
En Ligue 1, je pense que c'est un de leurs meilleurs matchs, parce que c'était abouti de A à Z. J'ai bien aimé le milieu de terrain aussi dans son ensemble avec Paredes, Verratti et Gay. Je trouve que ça avait fière allure, du moins pour la Ligue 1. J'ai bien aimé aussi les déplacements et le comportement en général de Mauro Icardi. Alors on sait que il a pas forcément il y a eu des rumeurs qui étaient avérées qu'il avait pas forcément été très bien accueilli au sein du vestiaire, notamment par Di Maria et Paredes. Donc de le voir comme ça volontaire avec l'envie de s'imposer au Paris Saint-Germain, que le club lève son option d'achat, j'ai trouvé hyper intéressant. Et puis voilà, le couteau suisse Herrera qui a dépanné, qui a, j'ai trouvé plutôt correct.
Coéquipier modèle, je pense.
Ouais, plutôt
pas
correct.
Un bleu que l'autre, toujours là pour la tâche et pour bosser. Un derrière qui a joué en latéral.
Encore une fois, Neymar a marqué, donc voilà, enfin c'est une équipe qui, c'est l'équipe a bien tourné. Après ça demande confirmation parce que franchement ça faisait un moment qu'on les avait pas vus aussi bons en Ligue 1.
Angers c'est bizarre hein, quand même. Hein.
Pourquoi
bizarre, oui et non. Deuxième de Ligue 1, ok avant cette journée, plutôt solide. 6 buts à face à Lyon, 4 ce soir face au PSG.
Ils ont forcé.
On remet le contexte face à Lyon.
Ce que vaut Angers finalement.
On remet le contexte face à Lyon. Le départ de Reina Delaïne dans la semaine, ils arrivent à Gerland avec beaucoup de blessés.
Moi, j'étais déçu, je m'attendais qu'à une opposition, les gars. Bah, vous mentir, Angers vient solide, avec des convictions dans le jeu et tactiquement, et ils ont rien proposé.
Ils ont eu deux occasions,
je crois qu'ils ont été un peu pris de court. Ils ont dû forcément observer comment le Paris Saint-Germain était prenable au Parc. Il n'y avait pas besoin d'aller chercher très loin. T'allais regarder ce que Reims avait fait. Donc ils se sont calqués exactement sur ce que Reims avait fait, c'est-à-dire un bloc bas et d'essayer de partir très rapidement en contre, de sortir très vite. Or, tu prends un but beaucoup trop tôt dans la partie, et notamment ton but, il est largement évitable, puisque Sarabia, il arrive au milieu de trois défenseurs, tout le monde recule, se regarde, et c'est ça qui tue un peu la tactique de d'Angers. Ouais. À partir de là, quand tu cours derrière le score au Parc... Bah, quand t'es mené, il se passe autre chose. C'est-à-dire que tu te mets en position de, il y a ce rapport dominant-dominé qui s'installe. Et le Paris Saint-Germain, lorsqu'il est dominant, eh bah, il est brillant. Mais il est brillant parce qu'il arrive à trouver les solutions dans les petits espaces. Il arrive à trouver les décalages constamment. Et c'est sûr que
David
nous appelle le 32-16.
Tu nous as demandé le taulier. En fait, parce que ça, c'est une vraie nouveauté par rapport à la saison dernière.
Navas.
C'est Keylor Navas. Parce qu'il a pas beaucoup d'arrêts à faire. Là, il y a une frappe, notamment de Santa Maria en première, qui est pas non plus hyper compliquée à capter. Mais il l'arrête avec une sérénité et ça transpire sur toute la défense. Donc ça, c'est la vraie nouveauté de cette année. C'est Keylor Navas, le Paris Saint-Germain a enfin un bon gardien. Après l'arnaque Alphonse Avola.
Attention, je vais donner un jugement un peu hâtif, mais j'ai le sentiment, j'ai regardé le match cet après-midi et je vois les absents également. On va parler d'Mbappé dans un instant. Paris n'a jamais eu un effectif aussi profond, aussi cohérent également, je trouve.
Il manque quelqu'un à gauche,
le Qatar est arrivé.
Il y a un bémol pour moi.
Donc des remplaçants aux latéraux peut-être.
Je mets un bémol, Nico. On en a parlé sur la première période. Certes, j'ai trouvé une grande fluidité sur le plan offensif. Mais j'ai trouvé que sur le plan défensif, c'était un peu les portes ouvertes quand même. Hein. Angers s'est créé moult situations qui auraient mérité au moins un but. Je repense à cette occasion d'Aloui où il se retrouve seul face à Navas. J'ai trouvé que sur la première période, il y avait quand même... Et j'ai vu Thiago Silva s'énerver à maintes reprises, ce qui veut dire que il y avait quand même un peu de largesse sur le plan défensif.
Et qui était un peu à la rue ? Qui était un peu à la rue sur les situations angevines ? C'est encore Presnel qui me permet.
David de 32-16, supporter parisien, nous a appelé.
Tout ça s'est rétabli.
Salut David.
Oui. Ils ont fait une très bonne deuxième.
Salut David.
Salut David. Bon, tu vas pas nous contredire.
Oui, salut.
Hein.
Bonjour à tous.
C'était un match abouti du PSG. Voilà,
j'ai écouté attentivement un petit peu toutes les remarques que vous pouvez faire. Bon, moi, ce que je retiens sur ce match-là, c'est sûr que là, tout à l'heure, vous parliez du but de Sarabia ou. Il y a une erreur défensive des Angevins qui reculent, qui regardent, etc. Mais bon, j'ai presque envie de vous dire, s'il n'y a pas d'erreur défensive, il n'y a jamais de but dans un match. Donc voilà, moi, je pense que la prestation du Paris Saint-Germain dans l'ensemble sur ce match-là, il a été très abouti, il a été bon. Après, tout n'a pas été parfait non plus. On parle des petites largesses défensives qu'il y a. Bon, après, vous savez très bien, hein, Paris mène 1-0, 2-0... ils savent que devant, on a quand même une puissance, même s'il n'y a pas encore Kylian Mbappé qui est là, mais on a quand même une puissance de feu quand même qui est, si jamais ils appuient sur l'accélérateur, ils peuvent faire mal à tout moment. Je dirais que par rapport au Paris Saint-Germain, par rapport à aujourd'hui, j'ai envie de dire que la semaine dernière, quand ils ont battu Bordeaux 1-0, tout le monde disait oui, ils ont vraiment pas fait, ils ont un match moyennasse, il a fallu attendre l'entrée de Kylian Mbappé. Là, on gagne 4-0, mais il y a toujours des petites choses à redire. Mais il y aura toujours des choses à redire. Moi, tout ce que je peux dire, c'est que là, faut rester calme, faut rester serein. On est au mois de début octobre. On n'est pas encore. Voilà,
au printemps.
La saison, pour moi, elle n'est pas encore véritablement.
C'est le printemps. C'est le printemps, le début de ta saison.
Voilà, c'est le printemps. Pour l'instant, pour moi, l'équipe, elle est en rodage.
Pensez printemps, les amis.
Dans l'équipe. Il y en a un qui a intérêt à faire très attention dans ses choix. Pour l'instant, il a rectifié le tir. C'est Thomas Tuchel.
Exactement.
Parce que ce qu'il a fait contre Reims, c'est inadmissible. Hein, et c'est pas une équipe qui nous a mis, là. Il manquait plus que le jardinier à mettre avant-centre aussi pendant qu'il y était. C'était du n'importe quoi. C'est quand même des joueurs professionnels. Qu'il en mette certains en repos, je le conçois. Qu'il ait des blessés, je le conçois également. Mais enfin bon, l'équipe qu'il a mis face à Reims, c'est du n'importe quoi. Donc voilà, bon, ça c'est le petit truc qu'il y a sur Tourelle. Il a rectifié le tir, c'est bien. Moi je dis que Tourelle, entre ses mains là, il a une Ferrari. Mais Leonardo est revenu.
Je pense aussi.
Il a la patte Léo sur le groupe. On a, comme vous l'avez si bien dit, moi ça fait déjà des années que je le dis, on a un vrai gardien de but, parce que franchement, il avait beau être Titi parisien, comme on dit, j'avais aucune confiance en
lui. Bien sûr, exactement.
C'était une catastrophe. Là,
et t'as raison, David.
Quand les blessés vont revenir, il y aura une véritable profondeur de banc qu'on n'a pas encore tout à fait actuellement parce qu'il y a trop de blessés. Mais ceci étant, c'est pas grave, je préfère avoir des blessés là au mois d'octobre. Qu'ils soient tous à l'infirmerie ou
au mois de février, printemps.
Là, ça va vraiment les choses sérieuses.
Exactement. Merci David.
T'as tout à fait raison. Salut,
voilà,
David.
Je vous en prie.
Bonne soirée à toi, merci d'avoir appelé
au 32-16.
C'est info aussi, Loïc Tanzi qui suit le PSG, reporter à RMC Sport, qui nous dit que Leonardo va rencontrer la Fédération Française de Football pour évoquer le cas Kylian Mbappé, qui a été appelé malgré sa légère rechute, ce problème de cicatrice.
Ah, tu penses?
Ils vont mettre un coup de pression, en tout cas sûrement auprès de la Fédération Française, pour dire: attendez les gars, nous on ne fait pas jouer, n'allez pas le faire jouer, garçon.
Pourquoi?
Attention.
Mais moi je veux qu'il y aille. Attends, il y a PSG Marseille à la fin du mois. Moi, si on peut l'épuiser, il y a pas de souci. Va jouer le match contre les bouchers durs.
Si tu veux battre le PSG sur des blessures, ça ne tient qu'à toi.
Au point où on en est, bien sûr que on prend n'importe quoi comme victoire contre le Paris Saint-Germain maintenant. Mais faut être lucide.
Il faut comprendre le sélectionneur et la Fédé. T'as les deux matchs les plus importants qui arrivent aussi dans l'optique de la qualification. C'est dommage de te priver quand même d'un de tes meilleurs joueurs. Donc,
dans quel état? Dans quel état de forme?
Ah oui, dans quel état de forme? Après, c'est toute la difficulté quand les joueurs partent en sélection. Le club défend en priorité ses intérêts, la fédération...
J'ai rêvé que des dirigeants illois aient mettre la pression sur la fédération polonaise pour toi?
C'est déjà arrivé, oui.
Ah oui.
Pas à Lille, mais à Bordeaux, oui, c'est déjà arrivé.
Et vous vous rendez compte, nous au moins, on fait pas comme les autres gros malins là, on n'organise pas de Coupe du Monde en même temps que le championnat. Ça c'est d'un ridicule.
Non mais c'est même pas une pression, c'est qu'il faut faire ça en bonne intelligence.
Bien sûr.
C'est-à-dire que le club doit se mettre en contact, Deschamps doit peut-être se mettre en contact avec Leonardo ou Tourelle, et essayer de voir comment on peut faire au mieux pour préserver le gamin.
La fédération va voir, ils ont un vrai staff médical à la pointe qui vont voir comment quel est l'état de forme de Kylian Mbappé. On vient dans un instant. Ça y est, elles sont là, les drôles de dames. Fred Hermel, Simone Rovera, Julien Laurence, pour évoquer leur gros match Juve Inter demain, le réveil d'Eden Hazard au Real Madrid, et également avec Julien Laurence, notamment la blessure du Golioris. À tout de suite.
RMC, l'afterfoot, Nicolas Jamain.
Avec Jonathan Macardy, avec Ludovic Obraniak, l'afterfoot jusqu'à minuit, bien sûr, c'est l'heure des drôles de dames, et j'accueille avec chaleur Julien Laurence et Fred Hermel. Bonsoir messieurs.
Hola, salut chicos.
Salut les gars.
Fred, tu restes avec nous, mais tu peux quand même te mêler à la page foot anglais Premier League, l'autre plus grand championnat du monde.
Hein, on est d'accord,
le plus grand championnat. Julien, Julien, tu nous as écouté hier?
Hier, j'ai pas écouté hier.
Fred, il a quand même dit que la Liga, c'était bien au-dessus en termes d'intensité que la Première Ligue, quand même.
On va pas faire un débat là-dessus,
après,
les gars.
En termes d'intensité,
démerdez-vous avec ça, les gars.
Mais non, mais il a pas compris. Julien, ils essayent de nous séparer, tu sais. Ouais, je sais, mais je t'aimerais toujours, Fred, tu sais.
Ça dit, je crois que tu l'as un peu dit, Fred.
On a rien dit pour pas stopper le débat, mais c'était quand même...
La qualité technique, je veux bien. L'intensité, un peu moins quand même.
Là, je suis assez d'accord avec ça. Moi, c'est mon.
Techniquement,
la Liga est supérieure. L'intensité, effectivement, c'est
une intensité plus en Angleterre.
Mais non, mais parce que je disais qu'Hazard, en fait. Mais tu es d'accord avec moi. Hazard à Chelsea se baladait techniquement, et face à d'autres équipes anglaises, la technique suffisait. Mais en Espagne, il faut mettre de l'intensité en plus de la technique.
Voilà, allez,
c'est un cher, ton jour sous ses pattes.
Mais bon, je vais pas grappiller ton temps, mon cher Julien.
Julien,
vous êtes vraiment
très apaisé, Fred. Julien, l'info du jour en Angleterre, en tout cas vue de France, c'est la blessure du Golioris, blessure grave, luxation du coude. Troisième minute sur le terrain de Brighton.
Brighton,
exactement, 3-0. L'image est spectaculaire, elle est même terrible. Donne-nous les infos, tiens.
Alors on a eu peur, hein, très peur pour Hugo Lloris. On a pensé qu'il s'était même cassé le bras ou qu'il y avait un problème peut-être un petit peu plus important que, la, que sa luxation du coude. Finalement, il a passé d'abord des radios dans une clinique à Brighton qui n'a donc décelé aucune fracture. C'était déjà une, entre guillemets une bonne nouvelle pour lui. Donc c'était simplement une luxation. Il va venir à Paris pour aller à Clairefontaine voir le docteur de l'équipe de France. Ils vont faire une IRM lundi matin pour savoir sa durée exacte d'indisponibilité. En général, ça devrait être au moins 2 mois out pour lui. Minimum. Et puis après, peut-être aller jusqu'à 3 ou 4 mois. Mais ça aurait pu être bien pire s'il s'était complètement cassé le bras, voire même à plusieurs endroits.
Bah, le coude, c'est 6 mois hein, si tu te le casses. Mais là, ouais, 2 mois, ça me semble optimiste, hein, Julien.
Non, deux mois minimum. Je sais pas. Ouais. Fabien Lemoine, j'avais regardé un petit peu. Fabien Lemoine avait eu la même blessure. C'était entre 4 et 6 semaines, je crois qu'il était indisponible. Après, ça dépendra aussi de la gravité de la luxation en elle-même. Et il est pas gardien non plus. Tu as raison. Donc, ils prendront toutes les précautions. Mais s'il peut être indisponible pendant 3 mois, il aura limité quand même beaucoup les dégâts par rapport à ce qu'on a cru au début.
Évidemment, il est forfait pour l'équipe de France. Mac Maignan a été appelé le gardien lillois pour le suppléer. C'est une drôle de période pour Lloris, Julien, quand même, hein, parce que bon, ça n'a rien à voir, effectivement, une blessure et les performances sportives. Mais il a vécu une semaine compliquée entre sa bourde la semaine dernière, le week-end en Premier League, les 7 buts qu'il encaisse en Ligue des Champions face au Bayern. Et même sur cette action où il se blesse, Julien, on peut discuter de sa décision, en tout cas.
Oui, enfin, c'est même pas on peut discuter. C'est une grosse erreur de sa part sur une frappe anodine qu'il va chercher en l'air, il retombe, il glisse en fait un petit peu en arrière, où il est projeté en arrière, il lâche le ballon et Neil Maupay, ancien joueur de Nice et de Saint-Etienne, n'a plus qu'à le pousser de la tête dans le but. Et après, quand il retombe, c'est là où il se fait sa luxation du coude. Donc c'était vraiment un début de match cauchemardesque pour lui, et comme tu l'as dit, une semaine cauchemardesque avec l'erreur contre Southampton, qui au moins, lors de ce match-là, n'avait pas coûté de points à son équipe, mais il y avait quand même cette bourde, les 7 buts contre le Bayern, et puis encore l'humiliation d'aujourd'hui, parce que c'est vrai que Tottenham, ils arrivent à Brighton aujourd'hui dans une situation compliquée après la défaite, l'humiliation contre le Bayern. Psychologiquement, mentalement, ils sont très fragiles, et au bout de 3 minutes, ils prennent ce but et ils perdent leur gardien. Et un de leurs leaders de vestiaire est sur le terrain. Donc c'est vrai que tu pouvais pas avoir pire début de match que celui d'aujourd'hui, et puis après la suite a confirmé toutes les faiblesses, tous les problèmes qu'on a vus depuis le début de la saison en termes d'équipe, où il ne joue pas du tout en équipe, il n'y a pas d'état d'esprit dans cette équipe, il n'y a aucun esprit de...
Qu'est-ce que c'est de rien lâcher, de continuer. Julien, en fait, tu passes de finaliste de Ligue des Champions à une équipe moribonde qui a du mal à se trouver, sans âme en tout cas.
C'est pas une fin de cycle, Julien ?
Ben il y a peut-être ça, Joe, c'est vrai. Faut se rappeler aussi que Pochettino, après la finale de la Ligue des Champions, dit si on avait gagné la finale de la Ligue des Champions, je pense que je serais parti. Ça veut dire que déjà dans sa tête,
ça aurait dû être le contraire.
Il était 50% déjà parti, puisqu'il avait une chance sur deux qu'il gagne la finale, donc une chance pour deux qu'il s'en aille de toute façon. Donc dans sa tête, il était déjà 50% parti. Et je pense que c'est un mauvais message envoyé aux joueurs qui, eux, vont se dire s'il voulait déjà pas trop être là cette saison et qu'il est encore là, c'est qu'il y a un problème. Eriksen, Vertonghen et Alderweireld voulaient eux aussi partir. Il leur reste 1 an de contrat, ils sont toujours là et ils n'ont pas pu partir. Et je pense que la finale, l'épopée européenne, aussi incroyable qu'elle a été, parce qu'il y a quand même 3 miracles lors du dernier match de la phase de poule contre Manchester City et contre l'Ajax. Ça a été l'arbre qui a masqué la forêt, c'est-à-dire c'est une équipe qui avait quand même des difficultés la saison dernière, qui a fini 3e en Premier League de manière assez miraculeuse encore une fois, et qui finalement n'a pas réparé les problèmes qu'elle avait eu la saison dernière pour cette saison-là.
Et qui aujourd'hui est 8e de Premier League avec un match en plus, hein, que pas mal de concurrents juste devant Chelsea, un match en moins. United également 11e avec un match en moins. Jonathan.
Non. Ah, si, j'ai une petite question très rapide pour Julien. Neil Maupay, donc 3e but cette saison pour un joueur que en France on nous disait il est trop léger physiquement, il va jamais s'imposer en Ligue 1. Est-ce que tu peux nous dire 2 mots sur son intégration à la Première Ligue?
Ouais, ça s'est très bien passé. Il avait fait une excellente saison la saison dernière en Championship. Tu l'avais vu notamment contre Leeds.
Leeds.
Exactement. Où il avait été très très bon. On se posait la question. On en avait parlé cet été. Comment est-ce qu'il allait s'adapter à la Première Ligue? Est-ce qu'il allait mettre du temps ou pas? Il a marqué tout de suite. Après, Brighton, c'est une équipe qui a un petit peu mal à gagner. Ils avaient gagné qu'un seul de leurs 16 derniers matchs en Première Ligue. Donc la victoire d'aujourd'hui, ça lui a fait du bien. Mais c'est vrai que dans ce collectif-là, c'est une équipe qui joue au ballon, qui est très posé, qui joue vraiment un football assez attractif. Et pour lui, ça lui convient bien. Et je pense qu'il va marquer, à mon avis, une petite dizaine de buts cette saison. Et il aura fait une très bonne saison.
Ouais, j'espère que les clubs de Ligue 1 vont bien le regretter.
L'ancien Niçois qui avait démarré à même pas 17 ans, je crois, en Ligue
1. 16 ans.
16 ans, tout à fait.
Avec le GC Nice.
L'ancien Marc Lecuel.
Exactement. Tiens, un mot sur Liverpool, parce que c'est spectaculaire. Bon, c'était poussif. Hein, il s'impose à la 94e Liverpool, grâce à un but de Milner. 8 matchs, 8 victoires, 24 points sur 24 possibles. 17 victoires consécutives, Ludo, avec l'an dernier.
C'est incroyable.
Seul City a fait mieux dans l'histoire avec 18 victoires.
Klopp a remplacé Ferguson, c'est le Kloppy time, c'est plus Fergie time. Mais non, mais ils sont tellement généreux, ils donnent tellement qu'ils sont forcément récompensés de tous leurs efforts. Et même quand ils galèrent, comme c'était le cas cet après-midi, où finalement, je sais pas ce que t'en as pensé, Julien, mais bon, c'était pas forcément immérité que Leicester puisse revenir dans ce match-là.
Non, t'as raison, c'est vrai. Même si Liverpool a eu des occasions aussi pour se mettre à l'abri, ils auraient pu facilement mener 2-0 à un moment. Ils l'ont pas fait et Leicester a mérité de revenir dans le match.
Mais ils ont toujours ce supplément d'âme qui fait qu'ils n'abandonnent jamais, ils tentent toujours, ils attaquent toujours. Bah, ils sont généreux dans tout ce qu'ils font et ils sont récompensés à juste titre. C'est aussi simple que ça.
Julien, est-ce que t'as pas l'impression que les trois de devant, Mané, Salah, Firmino, qui ont joué respectivement la CAN et la Copa América, t'as pas l'impression que c'est peut-être un petit peu émoussé physiquement par rapport à l'an dernier, qui sont moins tranchants?
Si, c'est sûr, ils le sont parfois. Hein. Et n'oublie pas non plus que Salah et Mané n'ont pas eu de sélection internationale lors du dernier de la dernière trêve internationale, puisqu'il n'y avait pas de match pour les sélections africaines. Donc ils ont pu se reposer pendant ces 15 jours-là, contrairement aux Européens ou aux Sud-Américains, etc. Mais c'est vrai que ça commence à faire. D'ailleurs, aujourd'hui, Ludo a raison. Hein, on les a vus émousser après la victoire contre le RB Salzburg en Ligue des Champions mercredi soir, ou mardi ou mercredi soir. Et c'est vrai que ça commence à faire. Le problème, c'est qu'à part Divock Origi, qui a quand même connu la saison de sa vie la saison dernière, c'est compliqué de faire un peu plus tourner dans des matchs comme ça.
Lalana,
il le voit plus comme un milieu de terrain maintenant.
Ok.
Donc c'est vrai que c'est compliqué. Et le prochain match, c'est Manchester United à Old Trafford le week-end après la trêve internationale, pardon. Et qui pourrait donc mettre un terme à ses 17 victoires d'affilée contre son plus gros ennemi, quoi.
Il va falloir que Manchester aussi se remobilise.
Julien, juste deux secondes, j'aimerais parler du cas de Nico Pepe. J'ai l'impression que tout le monde lui tombe dessus assez rapidement. Trouve pas que c'est un peu exagéré? Il est si mauvais. Il est si mauvais que ça?
Non, il est pas si mauvais que ça, mais c'est très très anglais. Et je lui ai dit à Nico, je l'ai dit à ses agents, à son entourage, c'est typiquement anglais. C'est pour tout le monde pareil, pas que Nicolas Pepe ou pas qu'un joueur qui vient de la Ligue 1 ou pas un joueur français.
Même Martin Keown, je l'ai trouvé un peu dur dans ses propos quand même. Lui qui a été
complètement.
Qui sait quand même.
Roy Keane, l'autre jour, l'a massacré à la télévision sur Sky aussi.
Ne dites jamais de mal de Roy Keane.
Non, mais c'est vrai, mais c'est très anglais, Ludo. C'est comme ça, il faut qu'il s'y fasse, malheureusement. C'est pour tout le monde pareil. Thierry Henry, Patrick Vieira avant lui à Arsenal, Robert Pires, n'en parlons même pas. C'est comme ça, il va falloir qu'il fasse abstraction de cette vibe un petit peu négative autour de lui, parce que les gens attendent beaucoup, tu vois, que tout de suite, c'est facile.
Qu'est-ce qui lui manque actuellement?
C'est pas un problème de système?
Non, pas forcément, parce que il joue sur son côté droit, il est bien, mais c'est vrai que ça va plus vite, c'est beaucoup plus physique. Il a du mal encore à enchaîner les matchs, mais même dans un même match, les efforts dans un même match, parce que ça va très très vite. Je pensais qu'il allait débuter jeudi soir contre le Standard en Ligue Europa, parce que c'était pour moi le match parfait pour lui redonner un peu confiance, tu vois, qui marque un but, voire deux buts, une passe d'aise, deux passes d'aise. Il est rentré que les 25 dernières minutes, et puis ça a été un petit peu brouillon, parce qu'à ce moment-là du match, c'était brouillon de toute façon. Arsenal avait déjà fait la différence. On verra demain contre Bournemouth, mais c'est vrai qu'il lui faut juste il lui faut juste une performance, tu vois, un match référence.
Ouais.
Voilà, et après ça va le lancer.
Julien, avant de te laisser, un mot sur Olivier Giroud qui serait hors du groupe pour le match de Chelsea demain à Southampton.
Oui, c'est ça, c'est ce qu'on me dit aussi. Les clubs anglais ne communiquent pas sur les groupes emmenés par les entraîneurs, donc on sait jamais à l'avance. Mais effectivement, visiblement, c'est la tendance. Franck Lampard a rappelé l'autre jour qu'il lui faisait confiance, qu'il allait avoir besoin de lui, qu'il comptait sur lui, que c'était un grand professionnel, etc. C'est quand même un petit peu inquiétant maintenant. Il a joué que 17 minutes, je crois.
Ouais.
en championnat hein, depuis le début de la saison. Il avait joué en Supercoupe d'Europe et marqué d'ailleurs.
Ouais, sauf que là, s'il glisse hors du groupe, c'est encore une nouvelle étape qui est franchie, Julien. Là.
Pour l'instant, devant lui, c'est Tammy Abraham et Michy Batshuayi qui étaient titulaires notamment dans le match de Coupe de la Ligue.
Non, mais on va rappeler, il y a l'Euro à la fin de l'année.
Ouais, effectivement, et Deschamps l'a dit en conférence de presse, il va falloir qu'il joue avec Chelsea pour avoir une chance. Il a même dit, ironisé, je vais appeler Franck Lampard pour qu'il fasse jouer Olivier Giroud. Visiblement, s'il l'a fait, ça ne marche pas. Julien.
Et d'ailleurs, Nico, non, juste pour finir là-dessus, rappelez-vous, hein, il avait quitté Arsenal pour aller à Chelsea en janvier 2018, avant la Coupe du Monde 2018, pour avoir du temps de jeu, pour pouvoir aller au Mondial. Peut-être que cette fois encore, il devra malheureusement changer de club en janvier pour être sûr d'assurer sa place dans le groupe pour l'Euro l'été prochain.
Exactement. Il est à Marseille, Olivier Giroud. Tiens, pourquoi pas. C'est un peu cher aussi.
Giroud Benedetto.
Merci Julien, excellente soirée à toi. Je rappelle que
vous êtes
sur le Championship également, que Lamouchi enchaîne avec Nottingham Forest, deuxième Championship.
Et que Leeds a perdu.
Et que Bielsa est un peu en difficulté.
Ouais, attends, Berardi s'est fait expulser à la 16e. Voilà, ils ont glissé au classement, mais ils restent à moins de 3 points de la tête. Ça va aller.
Fred Hermel, c'est le Hermel Time à présent. Beaucoup de choses à raconter, bien sûr, avec toi, Fred. Bon, déjà, je pense qu'Eden Hazard a écouté l'after. Ou sauf si tu l'as appelé après l'after pour lui dire, écoute, à Paris, il croit plus forcément en toi. Bah, il a marqué avec le Real, ils ont gagné.
4-2. Il y a la passe décisive pour Modric, qui est quand même très intelligente. C'est-à-dire qu'il le cherche bien, superbe frappe de Modric. Donc, c'est quand même un but, une passe décisive. Son premier but officiel, sa première passe décisive officielle sous le maillot blanc. Bon, c'est pas encore le très grand Hazard, mais au moins, il s'est passé quelque chose.
Il a été décisif.
Il avait dit en conférence de presse mardi en Ligue des Champions, il faut que je marque pour relancer la machine. Bon, voilà, il l'a fait pour le coup. Et le Real gagne 4-2 face à Grenade.
Ben oui, et c'était le premier contre le deuxième. Donc
c'est vrai.
C'était pas n'importe quoi comme match. Grenade qui est un promu, qui a quand même battu le Barça 2-0 il y a 3 semaines. Voilà, c'est une équipe qui est encore sur la dynamique de la montée et qui a enchaîné plusieurs, ils en étaient à 4 victoires. Non, c'est une équipe un peu dure à manier et le Real a fait une très 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 bonne première période. Sauf qu'il y a toujours ces petits moments de blues.
Oh,
de
non. Le Real a fait le coup du siècle, Fred. Le PSG a fait le coup du siècle en récupérant Navas, qui est très bon, et en refourguant cette arnaque.
Ouais, alors, on va rappeler les faits, Fred.
Le match était flagrant.
Je te laisse à tes propos.
Ouais, je trouve ça un peu excessif.
C'est un bon gardien, mais c'est pas un gardien d'un niveau international. Et là, c'est pas un gardien qui a un niveau
international.
C'est un bon gardien de Ligue 1.
Je te prierai de ne pas insulter une personne devant moi, voilà, merci.
Mais j'ai pas insulté le joueur,
je parle de la
médiatisation et de la manière dont on parle et dont on vend. C'est un beau gardien de Ligue 1, mais c'est pas un gardien de niveau international, c'est tout.
Ok, doucement. Real 4-2 face à Grenade, c'est vrai, Fred, il y avait 3-0 pour le Real à la 101ème. Ils sont
fait un peu plus. Et là, il y a une bourde d'Areola.
Voilà, vas-y, raconte-nous la bourde.
En fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a une passe en retrait, il la contrôle mal. Il y a un attaquant Gonzalez de Grenade qui s'apprête à prendre la balle, donc il essaye de dégager, il touche le pied du joueur, donc il y a penalty. Et à ce moment-là, Grenade était totalement en dehors du match. Et cette erreur d'Areola relance Grenade. Et le Real a ses lapsus dès qu'ils prennent un but. C'est ça le plus grand danger qu'on a chez les Madrilènes, c'est que souvent, quand ils prennent un but, ils ont une petite période où...
C'est ça.
C'est-à-dire que le coup sur la tête, il est un petit peu trop long. Et après, ils se prennent un autre but sur coup de pied arrêté. Bon, finalement, ils gagnent 4-2, et c'est assez logique, avec une bonne entrée et un beau but de James Rodriguez en contre. Mais on est avec un Real Madrid qui n'est pas encore flamboyant, qui reste fragile, mais qui est quand même leader. Raison pour laquelle, quand j'ai posé la question à Zizou sur la petite bourde d'Areola, il a répondu avec le sourire, il était heureux, et il n'a pas fait toute une histoire du match d'Areola. Et Jonathan, tu vas écouter ce que dit l'entraîneur du Real Madrid, parce qu'on ne juge pas un joueur que sur une bourde.
Non mais, je pense qu'on l'a plus que toi, Areola.
On écoute.
Il sait qu'il a fait une erreur, donc il n'y a pas besoin de rajouter. Je reste sur son match, moi, le match énorme qu'il a fait. Pas simplement le fait d'arrêter des buts, parce que bon, je pense qu'il n'a pas trop eu d'arrêt, mais par contre, il a beaucoup parlé à sa défense sur les coups de pied arrêtés. Il a été impressionnant, il a fait ça naturellement. Je suis content pour lui, je suis content parce que ça se passe bien. Il faut qu'on continue tous de la même façon.
Fred, vas-y Ludo.
Fred, est-ce qu'il n'est pas en train de choisir son camp là?
Mais oui.
J'ai l'impression qu'avec Courtois, c'est en train de se tendre. Et que les louanges pour Areola sont
en train.
Je sais pas. J'ai l'impression qu'il y a. Ça va tourner.
Il veut deux gardiens. C'est-à-dire qu'il veut deux gardiens compétitifs. Et le jour où il faudra changer, si Courtois, qui est, et je vous l'assure, encore le numéro 1 aujourd'hui.
Ah, tu penses qu'il est toujours numéro 1 là ?
Il est toujours dans la tête. D'accord. De Zizou, il est toujours numéro 1. Mais c'est pas un dogme. Hein. C'est-à-dire qu'à partir du moment où Auréola sera meilleur que Courtois,
c'est pas prêt d'arriver, on
dire. Et moi, ce que je peux vous dire, c'est que ils sont enchantés. Et moi, je vous parle de choses de sources intérieures. Ils sont enchantés du comportement d'Areola à l'entraînement, du travail d'Areola, de ses performances, de la manière dont il joue. Et d'ailleurs, c'était très intéressant quand t'écoutais Zizou, parce que c'est vrai qu'Areola inspire, à part cette petite bourde, une sécurité dans le but madrilène qu'aujourd'hui, Courtois, pour diverses raisons, n'inspire pas, parce que Courtois a quelques petits problèmes même d'intégration dans le vestiaire, parce qu'on sent bien qu'il n'est pas à son niveau.
Est-ce qu'il est heureux, ce garçon, à Madrid, sincèrement, au-delà du fait
il voulait revenir à Madrid parce que c'est son ex-femme habite ici, ses enfants habitent ici, donc il avait envie de revenir à Madrid coûte que coûte. Mais au Real Madrid, on peut pas dire qu'il ait pour l'instant fait un match extraordinaire. Ça fait un an qu'il est là, on n'a pas encore vu le grand Courtois. Donc c'est vrai que le débat avec la petite bourde d'Areola va un petit peu retomber, mais Zidane, lui, mais c'est pour le gardien comme pour tous les postes. C'est-à-dire que il a 25 types à sa disposition, et Zizou,
tout est ouvert.
Faire jouer les meilleurs.
Tout est ouvert.
Exactement. Areola, on l'a vu. On l'a vu en Ligue 1, on l'a vu jouer plein de fois. Ce que je veux dire, c'est que le problème d'Areola, c'est que il peut être bon pendant les 89 minutes, et que souvent il fait des bourdes à des moments décisifs. Et ça, c'est le match du Real de cet après-midi. C'est symptomatique du gros défaut qu'il n'a jamais réussi à gommer depuis qu'il a été installé dans les cages du PSG.
C'est vrai, Fred, je rejoins un peu Jonathan là-dessus, c'est qu'il peut enchaîner 2-3 grosses perfs, même comme il l'a fait cette semaine en Ligue des Champions. Ouais. Il sort un énorme arrêt qui change.
Ça change tout. Hein.
Ça change tout.
Ça change peut-être même la qualification du Real. Hein.
Et qui permet le match nul au Real Madrid. Ce garçon-là, il te donne des perfs exceptionnels. Non,
même en bleu,
il gâche tout sur rien parfois.
Ouais. Il est là aussi pour progresser. En tout cas, moi, ce qu'on me dit de l'intérieur du vestiaire, c'est que c'est quelqu'un qui est vraiment sur une très très bonne dynamique. Et il est au Real pour progresser. Mais en plus, au PSG, il était numéro 1, il y avait une grosse pression. À Madrid, il a pas cette pression-là, parce que le numéro 1, c'est Courtois. Donc lui, il est venu pour rendre service. Et moi, on m'a même dit une phrase intéressante, on m'a dit, il est venu dans sa tête en acceptant son rôle. Il est venu à Madrid et dans sa tête, il accepte le rôle numéro 2. Ça veut pas dire qu'il est pas ambitieux. Mais il accepte son rôle de numéro 2. Et en fait, ça ne peut que s'améliorer pour lui. Et Fred, lui ne peut que s'améliorer.
Bah ça, Fred, vrai. Benzema buteur encore 6 buts cette saison. Combien de buteurs en Liga?
Mais Benzema, c'est...
Je savais en lançant qu'il allait commencer par...
Mais c'est-à-dire que première occasion, mais le but de Benzema est génial. Mais ce qui est sublime, c'est l'extérieur gauche du pied gauche de Gareth Bale. Enfin, le centre de Gareth Bale extérieur.
C'est la plus belle passive que j'ai eu depuis longtemps.
Mais c'est absolument sublime. Karim, comme c'est aussi un attaquant numéro 9, renard des surfaces, il est très bien au deuxième poteau, il pousse bien le ballon, etc.
Encore faut-il y être.
Ah ben c'est ça.
Encore faut-il y être au deuxième poteau.
Et ben exactement. Voilà. Et attendre et savoir qui est ton partenaire et qu'il est capable de faire cette passe à ce moment-là. Donc ça c'est. Mais Bale. Il a toujours des petits problèmes physiques. Alors pourquoi il n'a pas joué contre Bruges? Parce que Bale ne peut pas jouer deux matchs par semaine. Voilà. Ça, je vous le dis, ne peut pas jouer de base.
Il a golf de...
Non, mais sérieusement, il a un problème à l'adducteur ou il a des problèmes de récupération. Là aussi, je vous donne de l'info.
Ça, c'est l'hygiène de vie des adducteurs en général, Fred. Hein. Je sais pas.
Oui, mais sincèrement, Bale, on peut lui reprocher plein de choses, mais on peut pas lui dire qu'il sort, etc. Non. Qu'il ait à un moment pas été concentré sur le football, ça on le sait. Mais après, on peut pas dire que ce soit un type qui n'ait pas d'hygiène de vie.
D'accord.
Mais il y a un vrai problème avec lui, c'est que c'est un joueur fragile, on le sait tous, et que Zidane en prend vraiment soin. Bale, c'est un match par semaine, il a encore un petit coup là aujourd'hui. Mais c'est vrai que quand il fait des passes comme ça, Mais c'était d'une beauté
absolue. Il le fait avec une élégance aussi dans l'attitude également. Tu vois le port de.
Oui, et puis il est bien, il travaille beaucoup. Hein.
Voilà. Voilà pour le Real Madrid. L'air de rien, leader avec 4 points d'avance, Fred, avant le match de l'Atlético. Hein. Demain, le Barça.
Valladolid demain.
Ouais, et le Barça qui reçoit Séville aussi.
Ah, ça va être un beau match parce que Séville, il y a. a gagné contre l'Apoel Nicosie jeudi en Ligue Europa avec une équipe B. L'équipe A s'est reposée pendant une semaine pour un déplacement qui annonce un superbe match parce que le Barça qui va un petit peu mieux, bon, qui a quand même beaucoup souffert face à l'Inter, mais qui a quand même gagné face à l'Inter. C'est vrai que Messi a l'air un petit peu mieux physiquement. Suarez a marqué un doublé. On attend toujours beaucoup de choses de Griezmann, donc c'est quand même un match très intéressant. Et puis la revanche pour Julen Lopetegui, même si lui ne veut pas aborder ce match de cette manière, il s'est fait virer il y a un an après une banita prise avec le Real au Camp Nou. Donc il y a plein d'histoires autour de cette rencontre.
Merci Fred, excellente soirée à toi.
Adios,
Chicos. Bonne soirée à Madrid, bien sûr. On vient dans un instant pour la fin de l'after. Simone Rovera arrive pour nous parler de la victoire du Milan. Oh, elle fait du bien celle-là.
Et les compos.
Elle fait du bien Gianpaolo. Et les compos probables de Inter Milan Juve. Demain, gros match en Serie A. Tout de suite.
RMC L'Afterfoot, Nicolas Jamain
avec Jonathan Macardi, Ludovic Obraniak. Dernière ligne droite, ces quelques minutes sont réservées à un homme, un Italien,
ouais.
Un homme qu'on adore dans l'After. Il s'appelle Simone, son prénom Rovera, c'est son nom. Ciao. Bravo. Simone.
Ciao, bonsoir.
Salut Simone. Quelle énergie. Simone, ne perdons pas de temps. On a préparé l'émission ensemble, en tout cas l'actu Serie A. Bouffée d'oxygène pour le Milan. Victorieux 2-1 ce soir sur la pelouse de Genoa. Hernandez et Théo Hernandez et Kessié.
Oui, et je commence avec mon opinion quand même, parce que au-delà du match, il y a ce que j'ai vu. Et si j'étais un dirigeant du Milan, quand même, je ne me ferais pas tromper par les résultats. Et je changerais d'entraîneur.
Ah, Gianpaolo out.
Mais pour moi, le Milan a été d'une pauvreté technique en première mi-temps incroyable. Les choix de Gianpaolo ont été des erreurs. Il a dû se rattraper en deuxième mi-temps avec l'entrée en jeu de Paqueta et Leao. Et moi, je ne comprends pas comment Gianpaolo peut laisser Leao sur le banc de touche pour 45 minutes. Mais même 5 minutes sur le banc de touche serait 5 minutes de trop. Aujourd'hui, c'est les joueurs plus décisifs du Milan, avec sa qualité, ses appels, sa force, sa conduite des balles, ses contres. C'est quelque chose d'extraordinaire. Milan qui s'en sort très, 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 très bien. Premier but de Genoa, avec une boulette incroyable de Reina, qui a été titularisé sur les derniers instants pour un problème physique de Donnarumma dans l'échauffement. Et dans la deuxième mi-temps, entrée de Paqueta, entrée de Léa, au Milan qui a 15 minutes de qualité, 15 minutes, pas plus. Et il y a l'égalisation de Théo Hernandez, premier but pour lui qui devient quand même un indiscutable titulaire sur la couloir gauche, et un pénalty transformé par Kessié pour le 2-1. Et à la 93e minute, pénalty pour Genoa. Et Reina, après une énorme boulette en la première mi-temps, se rattrape et arrête le pénalty et sauve Gianpaolo, qui pour moi, c'est malheureusement pas une mauvaise, pas une bonne nouvelle pour Milan, parce que c'était l'occasion.
Une défaite aurait pu l'éjecter du Milan. Attends, deux secondes, faut qu'on enchaîne sur Inter. Désolé, Ludo. Inter-Juve, c'est le gros match. Le derby d'Italie, comme on l'appelle.
Oui.
Entre les deux leaders, justement, l'Inter est devant, 20h45. Les infos compo Juve, notamment, surtout.
Attention, hein, les bonnes cette fois, Simone.
sont toujours bonnes, la mienne. Et la Juve sera au 99%. La Juve habituelle, c'est-à-dire un 4-1-2 avec Ramsey derrière Higuain et Ronaldo. Et pour le reste, les milieux classiques, Matuidi, Pjanic, Khedira. Et la défense qu'on a vue même face au Leverkusen. Donc, Cuadrado à droite. On rappelle, Decilio et Danilo sont blessés. Bonucci, De Ligt et Alexandro. Donc, pas des surprises. Et il ne devrait pas avoir de surprises, même pour l'Inter, où il y a un seul doute. Sur le couloir droite entre Candreva et D'Ambrosio, je pense que c'est D'Ambrosio si je connais un peu Antonio Conte, et pour le reste c'est Godin, De Vrij, Skriniar, Barella, Brozovic, Sensi, Asamoah à côté de D'Ambrosio et Martinez à côté de Lukaku. On rappelle que Sanchez est suspendu.
Ton prono vite, Simone.
Fait en 5 secondes ton prono, Simone.
Pour moi, ça va être un match nul à la fin, un partout, deux partout, mais ça va être un match très très tendu. Aujourd'hui, Sarri a dit, pour moi, ces matchs à 0% d'influence dans la lutte pour les titres.
Sauf que s'il perd, il
c'est totalement faux.
Merci Simone, excellente soirée à toi, monsieur. Merci de terminer pour la fin. Cette info, Maradona a gagné un match, ça y est, avec son club. Et la casquette du Venezuela sur la tête, sur la pelouse de Godoy Cruz. Il a fallu Godoy Cruz,
la Plata, pour
qu'il gagne.
Ouais.
Ciao Simone. Ciao Jonathan.
Ouais. Rendez-vous ce soir. RMC Sport.
Bye bye.
Adesanya Whitaker.
Excellente soirée. Bye bye.
RMC.
At the Bank of Antandek, mortgages are on the menu.
I was in the chippy last night and it hit me.
Go on.
We should give all our new mortgage customers £1,000 of spuds.
Potatoes.
Yeah, jackets, roasties, dolphin wars. I mean, what's not to love?
Hey, yeah, we could call it Mashback.
Genius.
Meanwhile, at Santander, they're giving their customers £1,000 cash back on selected first-time buyer mortgages. See what's possible at Santander.
Lending subject to status and criteria. Cashback given on completion and repayable if mortgage closed within 2 years. Offer can be withdrawn. Your home may be repossessed if you do not keep up repayments on your mortgage.